Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le gouvernement tente de trouver une réponse à la flambée des prix du carburant. Rien n'est exclu, affirme le porte-parole Gabriel Attal, qui évoque la piste d'un chèque carburant avant celle d'une baisse des taxes. Réponse dans les deux prochains jours. La grande distribution, elle, n'a pas tardé à réagir. Vente à prix coûtant de l'essence pour Leclerc ou remise de 5 euros à la caisse après un plein pour Carrefour. Les supermarchés ont fait preuve de plus de réactivité. Une caméra de vidéosurveillance sciée à la disqueuse par des hommes en cagoulé, ça s'est produit dimanche soir dans la ville d'Oyonnax dans l'Ain, dans un des quartiers où le trafic de stupéfiants est prospère. Visiblement, la caméra, installée 48 heures plus tôt, dérangeait les dealers. Par ailleurs, c'est aujourd'hui qu'une nouvelle amende forfaitaire entre en vigueur pour ceux qui squattent les halls d'immeubles ou qui font le guet pour le compte des trafiquants de drogue. Un père de famille placé en garde à vue à Valence, son fils de 11 ans avait crié « Allah Akbar » lors de l'hommage à Samuel Paty. Et l'homme furieux que son fils ait eu un avertissement était venu lundi matin dans l'établissement pour menacer de mort la direction. Les enquêteurs ont retrouvé à son domicile un sabre, une bible, deux livres salafistes et une somme de 11 000 euros en liquide. Il a été placé en garde à vue. Il n'était pas connu des services de renseignement. Et puis, un autre incident similaire s'est produit à Saint-Ouen-le-Monde, l'Aumône, dans le Val-d'Oise. Vendredi, le collège Marcel Pagnol a appelé la police pour un parent d'élève entré dans l'établissement qui voulait des explications suite à l'exclusion temporaire de son fils. L'adolescent avait tenu des propos diffamatoires pendant un cours d'histoire lors de l'hommage à Samuel Paty et traité sa prof de raciste. L'actualité, c'est aussi Nicolas Sarkozy convoqué par la justice pour venir témoigner au procès dit des écoutes de l'Élysée. L'ancien président de la République bénéficie de son immunité présidentielle puisque les faits se sont produits pendant son quinquennat, mais il devra venir devant la cour sous statut de témoin assisté début novembre. Enfin, les Français encore timides face à la troisième dose du vaccin. Le pass sanitaire prolongé jusqu'à l'été, les députés s'en emparent avec des oppositions bien décidées à ne pas laisser le gouvernement prolonger à l'infini cette mesure contraignante pour les Français. On débat de ces sujets d'actualité avec mes invités Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Nous sommes avec Bruno Modell, bonsoir, député de La République En Marche du Rhône. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire.
Bonsoir.
Et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va tout de suite revenir, bonsoir Céline, sur la hausse des prix du carburant. Le gouvernement tarde à trouver la bonne réponse à apporter pour aider les Français. On vous a posé la question via le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous êtes favorable au chèque carburant? Votre réponse est claire et massive. 94% de non. Vous préférez évidemment la baisse des taxes. Tout de suite, on écoute vos réactions avec ce reportage à Lille de Damien Deparnay et Charles Isermann.
Dans cette station-service de la région lilloise, le litre de gasoil est à 1,54€, le sans-plomb entre 1,62€ et 1,70€. Pour les automobilistes que nous rencontrons, le gouvernement doit prendre des mesures pour faire face à cette flambée des prix. Certains se disent favorables à la création d'un chèque carburant.
Un chèque carburant pour les revenus les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule tous les jours au quotidien serait plus équitable.
Mais la plupart d'entre eux attendent plutôt une baisse des taxes sur les carburants.
En sachant que 60% de notre plein va directement à l'État, il y a un moment ou un autre, on est bien des vaches à lait, mais il faut dire stop.
Je pense qu'aujourd'hui, on est assez taxé ici au niveau de l'essence pour pouvoir baisser un peu les taxes.
Moi, je préfère que l'État il baisse les taxes. Parce que si on fait un chèque, c'est momentané.
Pour Philippe Dutrieux, directeur de l'Automobile Club du Nord, une baisse des taxes est aujourd'hui nécessaire.
80% des Français utilisent quasi quotidiennement leur voiture, donc ça devient vraiment un produit de première nécessité, l'essence. Et au même titre que le gaz et l'électricité qui ont un taux de TVA réduit à 5,5%, ça nous paraît complètement logique que ce soit la même chose pour l'essence avec un taux de TVA réduit à 5,5%.
Avec une TVA réduite à 5,5%, les prix de l'essence pourraient baisser de 18 à 20 centimes par litre.
Voilà pour ce reportage. On débat de cette hausse des taxes et des prix de l'essence tout de suite dans Punchline. C'est parti pour ce soir.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. On évoque cette hausse des prix du carburant. Comment amortir le choc pour les Français? Bruno Bonnel, vous êtes de La République En Marche. Le gouvernement tergiverse, n'arrive pas à trouver la bonne solution. Gabriel Attal nous promet quelque chose d'ici 48 heures. Taxes, baisse des taxes. Alors évidemment, on comprend bien que le gouvernement ne veut pas en entendre parler, mais les Français la réclament. Évidemment, ce serait plus simple de faire un chèque carburant. Mais ça, évidemment, c'est un peu plus limité comme mesure.
Il faut déjà rappeler que un centime de moins à la pompe,
c'est 500 millions d'euros en moins dans le budget de l'État. Donc si on dit 20 centimes de moins, ben, ça représente 10 milliards d'euros. 10 milliards qui ne vont pas dans les hôpitaux, dans la police, dans les prisons, dans notre confort de vie. Le gouvernement ne met pas des taxes à la pompe pour harceler les gens.
Remplir ses caisses.
Mais tout simplement pour faire fonctionner le pays, et dans notre modèle social. Donc effectivement, on vit quoi aujourd'hui ? On vit une hausse externe à la France, externe au gouvernement, d'un certain nombre de matières premières, et notamment de l'essence. Donc du coup, on a un impact à la pompe. Alors, pourquoi le chèque ? Je ne connais pas la décision finale du gouvernement, mais pourquoi le chèque ? Ben pour que les gens qui sont dans la nécessité absolue d'utiliser leur véhicule et sur lesquels il y a un impact, je pense aux infirmières, je pense aux auxiliaires de vie sociale, aux personnes qui se déplacent avec des petits budgets, là, leur donner le soutien qu'il faut conjoncturellement. Si on se met à baisser globalement les taxes, il y aura deux impacts. Le premier, ben celui-là, économie sur toute la France. Ça veut dire que quelque part, il faudra retrouver cet argent. Hein. Donc on ne pourra pas nous dire après, il y a trop de dettes, et les nouvelles générations, et machin, etc.
Ça, pour la dette, vous avez fait ce qu'il fallait.
Ben,
quand même,
enfin, en tout cas, il y a quand même une coup qui a quand même sauvé aussi le pays. Je vous ai pas dit qu'il fallait pas. Là, on parle d'un problème précis qui est ça. Et le deuxième effet, c'est quand on a baissé la TVA chez les restaurateurs, par exemple. Mm-hmm. Ben, les prix n'ont pas changé pour les gens. Et là, je peux vous dire qu'à la pompe, regardez les prix différents suivant les compétitions que vous trouvez sur les routes, ben, le prix est relativement libre. Donc là, ils diront, ben bon, écoute, on va se reprendre 5 centimes, 5, 14 centimes. Alors, il y aura une baisse moyenne, mais il n'y aura pas de miracle. On n'aura pas un impact direct de 14,5%, comme c'est demandé aujourd'hui, entre 20 et 5,5. Donc je crois qu'il faut être prudent et 48 heures pour une décision aussi importante. Moi, je trouve que le gouvernement est sage.
Alors, Jean-Claude Dacier, Céline.
Pardon, ce qui est sûr, c'est que sur les autoroutes, là, ça frappe très fort, quand même. Alors, on disait qu'effectivement, la marge des distributeurs, entre guillemets classiques, les anciennes stations-service, qui ont fermé d'ailleurs les unes après les autres, était ridicule, donc ça ne servait pas à grand-chose. Sauf que franchement, demander un effort sur les grands distributeurs, qui, franchement, on est quasiment à 2 euros pour le 98, c'est très cher. On est dans un coupe-gorge. Bon, on ne peut pas aller ailleurs, il faut qu'on fasse le plein, ou en tout cas qu'on remplisse un peu le réservoir. Boum, sur les autoroutes, c'est très, très cher. Cela étant, c'est vrai que le chèque carburant va s'imposer sans doute, mais en même temps, on l'entend dans les reportages qu'on a pu faire, je pense que ce serait pas mal que l'État fasse aussi un effort. 60% de taxes quand même. Il n'y a que nous, encore une fois, on a une fiscalité record. Le pétrole n'est pas cher, c'est vous qui le rendez cher. Encore vous. C'est Bercy qui le rend cher. C'est le gouvernement.
C'est un peu Poutine aussi.
Ben voilà.
Poutine, il faut choisir. Ou on le sanctionne sur la Crimée, ou on négocie avec lui le prix du pétrole. On ne peut pas avoir tout et le contraire de tout. Il faut quand même être raisonnable.
Alors,
pour revenir au prix du pétrole, je pense que le gouvernement va devoir faire un effort. Ça serait une petite baisse des taxes pour faire baisser de 10 ou 15 centimes serait la bienvenue.
Il va devoir d'autant plus le faire que ces grands distributeurs ont partie liée à l'État et savent très bien négocier avec l'État un certain nombre d'avantages à l'international, tout comme à l'intérieur des frontières du pays. Donc il va peut-être falloir un jour que l'État montre qu'il est aussi une puissance, qu'il a aussi un pouvoir d'action. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très compliqué pour des gens qui aujourd'hui vivent dans la France périphérique de s'entendre dire, mais vous savez, si ça continue comme ça, c'est sur vos hôpitaux, c'est sur les transports en commun, c'est sur... Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, tout cela est en train de disparaître. Regardez un petit peu l'état des hôpitaux dans la France périphérie. Ils sont en faillite et très souvent, s'il n'y avait pas eu le Covid, on parlait de privatisation d'un certain nombre d'hôpitaux qui sont pourtant déterminants pour l'avenir de ces territoires. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Les lignes, il y a presque plus de bus, les lignes de train sont pas toujours très bien achalandées. Sont sur ces territoires où vous avez par exemple des lycées où il y a plus de 1500 élèves parce qu'on n'en a pas construit, parce qu'il n'y a pas de lycée de proximité et ainsi de suite. Si on fait toute la liste, eux, ils vont vous dire, mais vous savez, déjà, nous, le service public sur nos territoires, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre. Et ils ont le sentiment que leurs dirigeants vivent dans quelques arrondissements autour de Paris, extrêmement privilégiés, et que ça, ils connaissent ces réalités, mais ils ne les vivent pas, ils ne les touchent pas du doigt, elles leur sont lointaines. Et c'est là que les tensions les plus importantes se créent. Et enfin, la dernière chose, c'est que très souvent, les chèques qu'on donne comme ça, on les donne effectivement aux plus modestes. C'est une forme de charité. Mais dès que vous avez, par exemple, deux infirmiers, un ouvrier spécialisé, une infirmière qui vivent en ensemble. Dès que vous avez deux salaires alors qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, vous dépassez très souvent les plafonds. Et ainsi de suite. Cette douleur-là, elle est telle que je racontais tout à l'heure, en allant acheter un paquet de cigarettes, j'ai entendu quelqu'un dire, ça m'a beaucoup amusé, mais c'est vrai, en disant il y a bientôt des fourches qui vont piquer des culs. Et c'est... En France, on a une petite tradition de la jacquerie. Et là, on sent quand même une certaine exaspération. Je ne sais pas si ça va exploser. L'avantage, c'est qu'il y a les élections présidentielles pour se défouler. Mais en tout cas, la marmite, la pression dans la marmite est en train de monter.
Jean Garrigue, est-ce que le courant des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes peut refaire surface ?
Je ne suis pas prophète. J'ai l'impression que l'histoire, d'abord, ne repasse jamais tout à fait les mêmes plats et que la situation est quand même un tout petit peu différente, notamment, effectivement, parce qu'il y a cette perspective de l'élection présidentielle pour exprimer son désaccord ou son accord avec le pouvoir. Comme j'arrive en bout de table, je peux en faire un petit peu la synthèse en disant, effectivement, il y a une urgence sociale. Il y a une France périphérique qui souffre et qu'il faut absolument, prendre en considération. Ce qui veut dire que c'est vrai, les taxes, plus de taxes, c'est diminuer la capacité de l'État à assurer l'État-providence. Réduire les taxes, je dis une bêtise. Réduire les taxes, c'est enlever des moyens pour l'État. Mais on est dans une situation telle. Et puis, il y a eu le redressement, le plan de redressement économique. Il y a eu le quoi qu'il en coûte. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est telle. Et je pense que la préscience par les pouvoirs publics de ce qui se passe dans cette France périphérique a quand même évolué depuis notamment la crise des Gilets jaunes. Et je me dis que, même symboliquement, une baisse des taxes, ce serait quelque chose qui, aujourd'hui, m'apparaît comme une nécessité, j'allais dire, symbolique et politique.
Bonne de la République.
Mais vous savez, je ne suis pas du tout contre tout ce qui vient d'être dit. Je dis simplement il y a un traitement dans l'urgence de certaines personnes pour lesquelles c'est indispensable. Et évidemment, le problème du chèque, c'est le problème du seuil. Vous avez raison d'évoquer deux salaires ou quelqu'un qui passe la barre et la frustration. Mais à côté de ça, je mets juste en garde sur le mythe classique de « faut réduire la TVA, faut réduire la taxe, faut réduire tout ça », parce que finalement, après quelques mois de mieux, on s'aperçoit que petit à petit, les choses se rattrapent. Je reprends l'exemple des restaurateurs pour lesquels, à l'époque, on avait fait tomber la taxe, et bien le prix des menus n'a pas changé pour la France périphérique comme pour les autres. Donc ça n'a rien à voir. Moi, je dis attention, c'est pas forcément le mécanisme idéal. Mais non, si vous voulez vraiment mon avis, il y aura quelque chose sur les taxes. Ah, c'est obligé. Non mais... Si vous voulez mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de lâcher quelque chose de ce côté-là. Mais ça sera plus de la négociation plus tactique que quelque chose de fondamental. Quand j'entends ramener la taxe à 5,5%, ou je ne sais pas quel délire.
Marine Le Pen propose ça.
Oui, Marine Le Pen, par exemple.
Non, mais chacun doit faire un effort.
Produit de première nécessité.
Et puis après, il y a les distributeurs.
Mettez-vous à la... Mettez-vous à la place de tous ceux qui ont du mal en fin de mois, comme le dit Céline, obligés de prendre la voiture matin et soir pour aller travailler. Ceux-là, vous les avez moins aidés que...
Oh non, c'est pas vrai.
Enfin,
c'est pas
bon, vrai. Laissez-moi finir. Vous avez fait, et je vous en félicite, énorme effort pour maintenir l'économie de ce pays dans un état... Je veux dire, la preuve, on repart bien sur les chapeaux de roue. Ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Là, je pense qu'il faut aussi faire un effort pour ceux qui sont pas spectaculaires, ils sont pas restaurateurs, ils sont pas chefs d'entreprise, ils bossent, et puis là, ils commencent à voir le peu d'argent qu'ils ont en fin de mois disparaître petit à petit. Vous êtes obligés de penser à eux.
Ce qui est décourageant. Objectivement, la politique est quand même difficile, parce que...
Ah oui.
Non, mais pouvoir d'achat, objectivement, je ne dis pas perçu, objectivement, pouvoir d'achat a augmenté pendant tout le quinquennat. On prend une crise comme la crise de l'énergie... Et on a l'impression que ça va être un grand coup de balai sur tout ce qu'on a fait. Croissance fait 6%, plus de 6% cette année. Ce qui, la fameuse cagnotte dont on entend parler, c'est parce qu'on fait une croissance de 6%. Et on se dit, waouh, regardez, l'État va s'en mettre plein les fouilles. Pas de chance, on prend la crise de l'énergie qui gomme l'effet croissance, donc l'effet cagnotte. Mais je voulais juste expliquer à l'antenne, tout simplement, que... Attention, on ne peut pas résumer la politique à des portions. Il y a eu des efforts qui ont été faits sur le pouvoir d'achat. On est dans une conjoncture très compliquée qu'on n'attendait pas. Et rassurez-vous, il y en a une autre qui arrive, ça va être le prix des matières premières et le prix des denrées alimentaires, le prix du blé notamment. Donc on sait qu'on est dans une situation globalement on a une pression internationale sur ces prix.
Et on... de l'inflation.
Ça pose pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Ça pose aussi le problème à l'international d'un pays capable de se faire entendre, d'une Europe capable de peser, et ça remet en fait en question également le fait qu'on n'est pas très bon dans les négociations, qu'on fait aussi des choix qu'on n'est pas capable de remettre sur l'établi quand la situation évolue et évolue en notre défaveur, et qu'on a le sentiment, on est encore dans l'impuissance du politique qui finit par dire, mais regardez, c'est pas de notre faute, c'est Poutine qui nous embête, c'est les Chinois qui gardent les... Mais à un moment donné, sur ce marché, soit on est capable de peser, soit on en est dépendant, et le problème, c'est qu'on a aussi organisé une certaine dépendance, justement en ne posant pas parfois la question de la souveraineté, ou en faisant de la question de la souveraineté quelque chose de sale. Et c'est en train de se retourner aussi un petit peu contre nous. Donc si on veut tout étaler, étalons tout, et rediscutons aussi de notre capacité de peser et de peser. Vous parliez des restaurateurs, je me souviens qu'à l'époque, au moment où il y a la décision de cette baisse de TVA, tout le monde dit dans l'opposition, vous allez voir, les restaurateurs ne feront pas baisser les prix, vous n'avez pas conditionné cette baisse, et c'est exactement ce qui va se passer. Quand l'État refuse le rapport de force, alors que c'est son rôle de temps en temps de rentrer dans le rapport de force, effectivement, on finit comme cela.
Allez, un tout dernier mot, Jean-Garrigue, avant la
juste
pause.
Pour dire que la France d'aujourd'hui, c'est plus la France du général de Gaulle, notre capacité d'influence. Non, mais je suis bien d'accord, et que... doit tenir compte de contraintes de la globalisation, de l'Union européenne, etc., qui, malheureusement, font que, de facto, nous ne sommes plus une puissance de premier plan. Et notre capacité à influer sur les marchés mondiaux, c'est une capacité quand même très, très minime. En revanche, il y aurait un rôle de l'État à faire pression sur les distributeurs, que ce soit de matières premières ou de denrées alimentaires, sur l'agroalimentaire en général. Là, je pense qu'il y aurait peut-être aussi une petite marge de manœuvre. Et peut-être que là, il faudrait un peu plus de fermeté de l'État.
On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ces scènes hallucinantes qui se sont déroulées à Oyonnax, où des voyous ont scié à la disqueuse le mât d'une caméra de vidéosurveillance qui était installée pour essayer de réduire les trafics de stupéfiants. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Oyonnax dans la nuit de dimanche à lundi. Un petit nombre de voyous se sont pris à un mât de vidéosurveillance. Il y avait une caméra de surveillance qui avait été installée 48 heures auparavant pour évidemment tenter de juguler le trafic de stupéfiants dans un quartier un peu sensible de la ville. Eh bien, ils s'y sont mis à la disqueuse tout simplement pour abattre en quelques minutes à peine ce poteau de vidéosurveillance. On fait le point avec Victor Chabert et Anthony Favalli.
Les faits se déroulent ce dimanche soir aux alentours de 20h. Sur la vidéo, on voit plus d'une dizaine d'individus qui découpent un poteau à la disqueuse en haut duquel est fixée une caméra de vidéosurveillance installée depuis à peine 48 heures, tout proche de la cité La Plaine, un quartier sensible. Pour David-Olivier Reverdy, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, c'est une atteinte à l'autorité de l'État.
C'est un véritable doigt d'honneur qui est fait aujourd'hui à l'État par ces images-là, parce que ça veut tout simplement dire que ce quartier, c'est le leur.
Une fois le poteau effondré, les individus s'acharnent sur les restes du dispositif avant de jeter des cocktails Molotov et de prendre la fuite. La mairie d'Oyonnax, qui a porté plainte, entend bien remplacer la caméra détruite. Plus encore, elle souhaite en ajouter 10 autres d'ici la fin de l'année sur un dispositif qui en compte pour l'heure une cinquantaine.
Voilà pour ces explications de Victor Chabert avec Anthony Favalli. Bruno Bonnel, on a là le symptôme de ce qui se passe dans notre pays. Des zones où bien les voyous à la disqueuse font tomber les caméras de vidéosurveillance pour empêcher que, encore une fois, on puisse les reconnaître pendant qu'ils se livrent à leur petit trafic. Et la mairie qui va remettre des caméras de vidéosurveillance, on va déployer des policiers. Et c'est un cercle sans fin, en fait. Et
non, on a la preuve surtout que ça commence à bien énerver les voyous. Qu'on se mette en place contre la drogue. C'est une guerre qu'on mène d'une façon systématique. Moi, je salue la mairie qui répond, on va en mettre 10. On va en casser une, on en met 10. Et on continue. Et il faudra que l'État soit derrière pour soutenir, ce qu'on a d'ailleurs pris comme engagement. Alors, celle-là est filmée, mais moi, dans ma circonscription à Villeurbanne, systématiquement, les caméras de surveillance sont détruites sur les points de deal. C'est quelque chose de classique. Donc, et à chaque fois, il faut en remettre et il faut persister. De toute façon, c'est une guerre qui va durer longtemps, la guerre contre la drogue. Il faut absolument montrer qu'au bout de la route, l'État sera plus puissant que ces deals. l'heure. Et je sais que c'est frustrant, et quand on voit ça, c'est même choquant. Dimanche, 20h, 20h à la disqueuse. Mais je crois qu'il faut être têtu et continuer à être obstiné contre cette drogue.
Grégory Joron, vous êtes avec nous du syndicat Unité SGP, un syndicat policier. Encore une fois, c'est très symbolique de ce qui se passe dans les quartiers où on n'arrive plus en fait à juguler les activités des délinquants. C'est bien cela, Grégory ? Je ne sais pas s'il nous entend, Grégory Joron, il est avec nous ? Oui, Grégory Joron ? Non, il n'a pas de son, donc on viendra le voir un peu plus tard. Jean-Claude Dacier, Oyonnax, c'est une petite ville, a priori, qui n'est pas, a priori, une cité chaude de la région parisienne. Et néanmoins, on a les mêmes scènes, avec partout, des cocktails Molotov, avec un certain nombre d'actions de dealers.
Partout où le trafiquant de drogue et délinquants sont souvent les mêmes, agissent et ont pris l'habitude de se considérer qu'ils sont chez eux. Dans ces parties de quartier ou dans ces quartiers. Regardez la série sur Canal en ce moment. Alors, c'est une série de télévision, mais sur le monde du rap. Avec
validé.
C'est validé. C'est, alors encore une fois, c'est de la télé. Mais c'est évidemment un rapport direct avec une réalité qui est extrêmement difficile, extrêmement compliquée, avec des gens avec lesquels on est difficilement... On n'a pas la capacité d'entrer en contact. Ils ne parlent pas le même langage que nous. Ils ne voient pas la sanction pénale comme nous. C'est un monde à part et qui fait son business depuis longtemps et qu'on prétend, à raison, je trouve, essayer de les empêcher et de réduire le trafic de drogue au minimum possible. Et je disais, et je maintiens, que les caméras, c'est bien de les couper, on en remet, on les coupe, on en remet. Je pense qu'il faudrait passer le plus souvent possible, quand on le peut, au drone. Parce que le drone, ça arrive sans prévenir. Ça photographie, ça visionne les délinquants qui sont pas toujours avec le masque ou la cagoule sur la tête. Et vous pourriez, j'en suis absolument convaincu, d'ailleurs je pense que ça devrait être utilisé, j'ai rien inventé, mais je pense qu'il faudrait généraliser. Il me semble que l'outil de demain, c'est plus le drone que la caméra qui est systématiquement, fréquemment cassée par les voyous.
Céline Pina.
Pour rebondir sur ton exemple, je me souviens d'un épisode de Game of Thrones dans lequel la conseillère de la reine dit, il s'appelle Littlefinger, et lui dit « le pouvoir, c'est le savoir ». La reine prend un poignard, le lui colle contre la gorge et lui dit « le pouvoir, c'est ça ». Et en fait, c'est ce qu'on est en train de nous montrer. Le pouvoir, ça se montre, ça se démontre. Et ici, c'est le pouvoir de détruire. Le message qui est envoyé, il est très clair parce qu'on voit bien qu'il ne se contente pas de faire tomber le pylône. Il y a aussi jet de cocktail Molotov, destruction autour, qui sont simplement, on montre qu'on est capable de détruire. Le pouvoir, c'est le fait d'avoir, c'est le fait de détruire. Et ici, c'est un message très clair qui est envoyé à l'extérieur. C'est notre territoire, toute intrusion sera combattue. C'est un message très clair qui est envoyé aux gens qui vivent ici en disant, regardez, c'est nous qui tenons ce territoire. Donc, si vous voulez que tout se passe bien, vous êtes derrière nous. Et le message passe très bien parce que si on met 10 poteaux et que les 10 poteaux sont sciés, le problème, c'est qui va intervenir ? On sait très bien qu'une simple voiture avec 3 personnes à l'intérieur ne peut pas venir dans un spot pareil, enfin dans un lieu de deal pareil, parce qu'il y a 50 personnes qui vont sortir pour se précipiter sur eux. Donc comment on fait ? On aura peut-être l'image, mais comment on fait ? C'est un écosystème qu'il va falloir créer autour. Si on n'a que l'image et aucune intervention, c'est encore pire. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des territoires perdus, qu'il y a des territoires abandonnés. Et hélas, pour l'instant, on est plus dans les territoires perdus de la République que dans des territoires en train d'être reconquis par la force publique.
Jean Garrig. Vous qui êtes un regard d'historien.
Tout a été dit. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, fondamentalement, si on ne démantèle pas en profondeur ces territoires perdus, ce sont des écosystèmes autonomes qui se sont constitués dans un certain nombre de quartiers, un peu partout en France aujourd'hui, pas seulement la périphérie des grandes villes, et qui effectivement, produisent une économie parallèle qui fait vivre, au-delà même de ceux qui sont directement impliqués dans les trafics, une partie de la population de ces quartiers, ce qui leur donne un pouvoir, ce qui leur donne une puissance et un pouvoir d'occupation du territoire. Il y a, pour les combattre, beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies, y compris la fermeté, l'intransigeance de la police. de la justice aussi, hein, de la sanction pénale, et puis le démantèlement, et là ça devient plus compliqué, des réseaux d'affiliation et de fourniture de la drogue, et puis aussi une réflexion à mener sur la transformation du tissu urbain, le déplacement des populations, parce que il y a là quand même, je le répète, comme le disait Céline, des territoires perdus. Ce sont des, on le voit bien d'ailleurs, c'est cette volonté de mettre en image leur conquête, leur implantation sur le territoire, elle est très claire. Et donc ça veut dire que dans ces territoires là ils sont inattaquables. Donc je pense que il faut s'en prendre à ces territoires, mais je le répète, on peut mettre des drones, on peut mettre des caméras, mais on n'ira pas au bout, on n'ira pas au cœur de ce qui fait,
au trafic, à l'économie souterraine. C'est souvent des quartiers qui sont des quartiers HLM. Donc en plus, le plus drôle entre guillemets, c'est qu'à la fin, on finit par financer ceux qui se livrent à ce trafic, ceux qui les aident. Si quelque part, lorsque les gens étaient arrêtés, qu'ils soient nourrices, qu'ils soient dealers, ils perdaient le logement social et ils étaient expulsés du quartier, on arriverait peut-être à changer la donne, non seulement expulsés, mais n'ayant plus droit à cette solidarité nationale. Ce qu'il faut penser, c'est que la solidarité qu'on exprime entre nous, elle est liée à des principes et à des valeurs. Si vous vous en excluez, pourquoi mériteriez-vous d'avoir cette aide apportée par le reste de la population qui vous subit ? Parce que les gens qui sont sous la coupe de ces personnes-là ne vivent pas bien et ils n'ont souvent pas le choix parce que leur réalité, ce sont ces voyous-là. Ce n'est pas la présence de la police, c'est absolument ça. Donc ils ont souvent pas le choix et des fois, ils peuvent d'ailleurs devenir nourrices sans avoir envie.
Nourrices, c'est-à-dire abriter des gens qui ont...
Oui,
qui
parce que sinon, ils ont des ennuis, leurs gamins se font tabasser. C'est aussi ça. La réalité de ces quartiers.
Les sondages disent qu'ils ont plus peur de ces caïds que de la police.
Absolument. Et justement, il y a aujourd'hui un nouveau dispositif qui est entré en vigueur, des amendes forfaitaires pour les guetteurs, les trafiquants qui squattent dans les halls des immeubles, qui rendent la vie extrêmement compliquée pour les habitants. Des amendes forfaitaires qui vont de 200 à 400 euros. On va écouter les explications de Vincent Fernandez, puis on va voir si c'est un bon moyen pour tenter de ramener le calme dans ces quartiers.
Les forces de l'ordre peuvent désormais verbaliser les squatteurs des halls d'immeubles. Une première amende pour occupation illicite d'une partie d'immeuble collectif est établie à 200 euros, minorée à 150 et majorée à 450 euros. Elle vise principalement les guetteurs et les dealers. La deuxième concerne les installations illicites sur le terrain d'autrui. Elle est fixée à 500 euros, minorée à 400 et peut monter jusqu'à 1000 euros. Ces deux nouvelles amendes doivent à terme remplacer des procédures judiciaires longues et donc peu utilisées. Pour le moment, seuls le Val-de-Marne et 5 villes partout en France vont en faire l'expérimentation qui court jusqu'au 14 janvier prochain.
Est-ce que c'est de nature, Bruno Bonnel, de La République En Marche, à permettre à ses habitants de mieux vivre ou est-ce que c'est quand même toute petite mesure ?
Non, je crois qu'on parlait de la symbolique tout à l'heure. Attendez, la drogue, c'est comme quand on parlait ou quand on voit dans les films la mafia. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extrêmement ramifié, organisé, et qu'il faut prendre de deux côtés. C'est-à-dire à la fois des grands trafiquants, avec les services de renseignement, avec les grosses sources d'approvisionnement, et puis il faut aller dans la capillarité, au bout de la chaîne, avec ces guetteurs, c'est ceux qui font ce qu'on dit la chouffe, ou les nourrices, ou tout ça. Donc moi, je crois que symboliquement, montrer qu'effectivement, il y a une action qui est menée sur les gars qui sont assis sur des chaises en plastique au milieu de la rue et qu'on va déloger à coup d'amende, c'est intéressant. Et moi, je crois qu'il faut le faire pour la population.
Ils y vont à combien de policiers ? À 10 minimum, alors. On est d'accord pour mettre les amendes.
En tout cas, c'est sûr qu'on aura sur ce plateau à discuter probablement d'affrontements entre des policiers et des dealers. Mais encore une fois, bravo à nos forces de l'ordre.
Vous avez vu Bac Nord, j'imagine, comme 2 millions de Français. Hein.
Il faut qu'ils tiennent. C'est véritablement une. On a déclaré la guerre à la drogue. C'est la décision du gouvernement. Oui, il faut que toute la chaîne de commandement de cette guerre fonctionne. Il faut protéger effectivement les policiers, les soutenir, mais pas dire il n'y a pas assez de moyens ou il n'y a pas assez de volonté. Il y en a une. Donc moi, je crois que c'est important. Il faut tenir le coup. Il y aura des heurts, mais au bout d'un moment, ça risque quand même de déplacer un petit peu les choses. Non, mais Pourquoi on partirait battu? Moi, je ne pars pas battu. Je dis il faut se battre jusqu'au bout.
Tout essayer, Céline Pina.
Dans le réel, très souvent, ce sont des gens qui ont organisé leur insolvabilité, c'est-à-dire qu'officiellement, les revenus viennent de la drogue. Officiellement, ils sont souvent sous minima sociaux, avec un certain nombre d'aides sociales. Et donc, les amendes, en fait, ne sont jamais payées et très souvent ne sont même pas exigées parce qu'il n'y a pas de revenus à saisir, puisque je rappelle que les minima sociaux, enfin, que les aides sociales ne peuvent pas être saisies. Donc, on a un vrai souci. Il va falloir, à un moment donné, rentrer dans le concret, rentrer dans le détail, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que sur le papier, c'est très bien. Je crains que dans la réalité, ces amendes ne soient jamais payées. Et ça renforce encore plus le sentiment d'impunité, le sentiment d'être plus fort qu'un État qui est vu comme tellement bébête qu'il ne se renseigne pas sur le réel. Il fait de l'affichage, mais ne se soucie pas réellement de combattre ce qu'il y a sur le terrain. Et cette histoire d'amende me laisse très dubitative.
Jean-Claude Dacier.
Je n'y crois pas une seconde.
Pareil.
J'essaie d'imaginer. Donc on fait une espèce de commando de policiers, parce qu'ils ne vont pas y aller tout seuls quand même. Il y a 5-6 gars qui sont soit assis sur des fauteuils avec des vieilles couvertures, ou il y en a deux qui sont debout dans l'immeuble. Donc les 5 vont prendre...
À condition qu'ils empêchent la libre circulation.
Mais déjà, il va falloir apprécier.
Donc ce n'est pas n'importe qui. Hein.
Donc oui, mais ils empêchent la libre circulation.
Il faudra le témoignage des gens,
quand les flics sont là, ils n'empêcheront personne. Je ne vois pas la constitution aisée, facile, de la faute. De la contravention. Parce qu'ils en ont vu d'autres. Dès qu'ils verront un flic, ils se barreront à toute vitesse. Honnêtement, j'espère me tromper, hein. Mais je vois pas. Et en plus, l'argument de Céline me paraît bon. Ils sont organisés. Vous ne verrez jamais l'argent revenir dans les caisses.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on les interpelle et on les fait rentrer dans un schéma judiciaire dont, à la même table, on dit il ne fonctionne pas. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant déjà de dire il y a un nouvel élément pour aider la police. Sur l'insolvabilité, je suis d'accord sur la première amende. Je suis d'accord. Mais 200, 300, 400, 500... Parce que ça va cumuler les amendes au bout d'un moment. Et là, on arrive à des seuils où, effectivement, la justice va pouvoir se mettre, cette fois-ci, en branle. Donc moi, je ne suis pas aussi désespéré que vous. Je pense qu'identifier ces gens, leur mettre des amendes...
Mais comment ils vont remplir tranquillement.
Mais
comment
tu t'appelles social, ça serait efficace, rapide, mais ça, personne ne veut s'y attaquer.
Au niveau de violence qu'on a atteint, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir, les malheureux candidats. Policiers, mais bon.
Alors, Jean-Marie, j'aimerais vous entendre.
La vertu de ces mesures, c'est d'essayer de contrecarrer un tout petit peu ce dont on se plaint en permanence ici. C'est-à-dire que la sanction, elle est beaucoup trop lente et elle aboutit finalement en général à un rappel à la loi ou à...
Il n'y a plus de rappel à la loi.
Peines,
stage de citoyenneté.
Voilà, stage de
citoyenneté. C'est le truc à la mode.
Là, vous avez une sanction immédiate, a priori, en tout cas, qui va, dans un délai très, très restreint, s'appliquer. Maintenant, là aussi, j'ai quelques doutes sur la faisabilité, parce que effectivement, il y a la question de l'insolvabilité, la question de l'organisation de ces bandes, des guetteurs, et la caractérisation du délit. Ça fait beaucoup.
Mais je pense que les policiers sont souverains sur la caractérisation du délit. Ils vous mettent une amende dans la rue parce qu'ils estiment que vous tenez votre téléphone. Non, je ne le tenais pas. Ben moi, je suis le flic, vous ne l'êtes pas. Je vous dis que vous tenez votre téléphone. Non, et vous prenez 135 euros. Et c'est terminé.
J'ai assez bonnet pour accepter. Dans les cités, ça va être plus compliqué.
Je parlais de la caractérisation du délit. Vous empêchez les gens de rentrer dans les meubles. Non, monsieur. Oui.
Quoi qu'il arrive, c'est manifester une volonté de casser un système.
C'est ça.
Et ça, rien que ça, c'est déjà quelque chose. Alors, même si les résultats ne sont pas probants au départ, moi, je pense que tout signe, tout indice que cette contre-société, parce qu'il s'agit d'une sorte de contre-société, peut être entravée, peut être gênée, ben, je pense que ça peut être quelque chose.
Jean-Claude
Dacier. Si la volonté du pouvoir n'est pas suivi des faits, pour le coup, il y a une forme de mépris du pouvoir aussi qui s'installe. Il faut faire attention. La volonté, c'est important, mais elle doit générer de l'action et elle doit générer des sanctions. Et là, on a quand même un petit souci, malgré tout, sur la sanction qui est peut-être liée aussi au pouvoir judiciaire et au fait que les dernières constatations montrent que les Français estiment que là-dessus, il n'est pas présent.
Absolument. Jean-Claude Dacier, un dernier mot.
Bon, ben, courage, je souhaite bon courage à tous les policiers avec leur carnet de contravention qui vont aller rencontrer les voyous et les délinquants. Dieu sait que ce sont
Qu'ils verront leur voiture, vont évidemment s'interpeller.
Moi, je suis évidemment influencé parce que les images que nous voyons. Ils sont d'une violence, ils en ont plus, ils n'ont pas peur. On passe notre temps à dire qu'ils n'ont pas peur une seconde des policiers, qu'ils n'ont pas peur de la sanction pénale, parce qu'elle n'arrive que rarement, etc., etc. Bon, alors peut-être qu'avec les contraventions, ça va marcher. Ouais, honnêtement, cher ami, j'en doute fortement. Mais je souhaite de tout cœur me tromper.
Le mot de perturber le système, le mot important.
Oui,
il faut, même s'ils sauvent et qu'ils reviennent, ils vont être obligés de se déplacer, puis revenir, puis bouger. Perturbons le système, c'est plutôt intéressant. Maintenant, ça n'empêche pas que les vrais combats contre la drogue, c'est bien les combats des trafics profonds que eux, on ne voit pas dans la rue, c'est sûr.
Et là, c'est autre chose.
Là, c'est autre chose.
Il faut attaquer par un autre angle, peut-être l'aspect financier, l'aspect blanchiment de l'argent.
Exactement.
Mais ça, c'est un vrai sujet.
Ce qui détruit notre quotidien et ce qui détruit la société, ce n'est pas ce grand banditisme, c'est vraiment cette espèce de petit écosystème qui crée des zones de non-droit. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que les habitants, eux, sont exposés à cette logique-là. Il faut faire les deux. Mais malheureusement, voilà, sur le terrain, jusqu'à présent, on a vu beaucoup d'effets d'annonce et peu d'actions réelles. Mais parce que c'est compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est une partie de plaisir.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ce qui s'est passé à Valence, où un père de famille est en garde à vue après avoir menacé de mort les enseignants de son fils, un petit garçon de 11 ans qui avait crié Allah Akbar pendant les hommages à Samuel Paty. On se retrouve dans un instant dans Punchline. A tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, direction Valence, où un père de famille a été placé en garde à vue après avoir menacé de mort les enseignants et la direction du collège de son fils de 11 ans, qui lui avait crié Allah Akbar pendant les hommages à Samuel Paty. Sandra Buisson est avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Tout a commencé par une provocation d'un collégien pendant l'hommage à Samuel Paty. Sandra, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est déroulé? On va revenir dans un instant voir Sandra Buisson, mais on sait, Céline Pina, que cet hommage à Samuel Paty a provoqué la réaction de ce petit garçon de 11 ans qui, après discussion avec ses enseignants, a accepté de s'excuser, et que c'est la réaction du père, en fait, qui, deux jours après, apprenant l'avertissement qu'avait eu son fils, qui a mis le feu aux poutres, puisqu'il est venu jusque dans l'établissement pour menacer, injurier, menacer le personnel enseignant. Aujourd'hui, les professeurs sont en première ligne.
Oui, tout à fait. On le voit dans le cas de Samuel Paty, ce qui s'est passé est une réalité atroce. Ne serait-ce que dire à un enfant, un professeur a été décapité parce qu'il avait juste fait un cours sur la liberté d'expression, c'est un peu compliqué d'hurler Allahu Akbar quand on est normal. Si on vient en revanche d'une famille sous influence, effectivement, il a 11 ans, il n'est pas forcément conscient de tout, il va dire ce qu'il entend autour de lui. Repris en main par les professeurs, l'enfant s'excuse. En revanche, on ne sait pas ce qu'il a dit quand il est rentré chez lui. Parce qu'il y a aussi un système de double langage. Il y a beaucoup d'adultes autour de soi. On finit par faire profil bas. Mais en son fort intérieur, on n'est pas du tout convaincu si ça fait des années et des années qu'on est remonté comme un coucou par un père qui, lui, est complètement sous influence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on apprend que cet homme travaille dans la sécurité privée. On se dit que c'est quand même assez angoissant de savoir que de tels types de personnes protègent un certain nombre d'événements. Ça sert à ça, la sécurité privée. La personne, en plus, a eu des problèmes avec la justice. Je veux bien qu'on puisse fermer les yeux et oublier certaines choses, mais peut-être pas quand on exerce certaines fonctions. Et quand on arrive chez le père, il y a quand même une panoplie avec couteau, sabre. Il y a de quoi être quand même extrêmement inquiet. Et surtout de voir que l'institution scolaire n'est pas respectée. Le père rentre comme dans un moulin, se permet d'être extrêmement menaçant. S'il le fait, c'est qu'il se sent dans son bon droit. Pour lui, virilement, il s'affirme. Et s'affirmer en face d'une autorité qui est méprisée, c'est se sentir viril à peu de frais. Ça dit quand même quelque chose de la manière dont on est respecté, dont les institutions sont respectées. Mmh. Et ça commence à devenir extrêmement inquiétant.
Et il a fallu faire appel au policier Bruno Bonnel de La République En Marche pour évacuer l'homme de l'enceinte du collège dans lequel il avait pénétré. Il y a un autre incident similaire qui s'est produit vendredi à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise. Pareil, un homme qui protestait contre l'expulsion de son fils, qui a fait éruption dans le collège pour insulter et menacer.
Saint-Ouen-l'Aumône, moi je connais très bien ce coin, c'est l'endroit d'où je viens. Saint-Ouen-l'Aumône, c'est à côté du collège où Samuel Paty a été tué. Donc ça dit quand même quelque chose de très fort sur le fait que cette commémoration n'a pas été assez portée par le politique, et c'est vu comme un signe de faiblesse, donc ça déclenche. On est toujours dans le pouvoir. pouvoir s'affirmer et montrer que son camp est plus fort que Alors, cette dernière remarque,
je ne peux pas être d'accord. Politique a énormément porté cette commémoration au plus haut de l'État. On l'a répété, il y a des incidents dans quelques écoles, mais la grande, grande majorité des écoles ont été respectueuses et ça s'est bien passé. Alors maintenant, sur le...
Il y a eu beaucoup d'écoles qui n'ont pas commémoré. Hein. Bon, c'était, il pouvait le faire, il ne devait pas le faire et il a été demandé...
Les chiffres aussi, entre 100 et 200...
Il a été écrit dans une circulaire sur l'organisation de cette commémoration qu'on n'était pas obligé de faire allusion à ce qui était arrivé à Samuel Paty. Et ça, c'est pas non, c'est une circulaire de l'éducation nationale.
Il faut faire très attention avec ce genre de propos parce qu'on donne cette impression de laxisme par rapport...
Si vous voulez, on peut la transmettre à l'écran, je l'ai.
Bon, oui. Donc, alors, je dis, il faut se méfier parce qu'on dérive très vite vers justement un manque de respect. Je crois que l'État a fait beaucoup sur Samuel Paty, les journaux aussi, les médias aussi. Maintenant, sur la situation qui est là, elle est grave. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a bien des enfants qui entendent chez eux des paroles donc de islamistes extrêmes et qui naturellement, en tant qu'enfant, peuvent les répéter dans des circonstances qui sont pas qui pour eux ne portent pas conséquence, mais qui sont très graves. Donc là-dessus, il faut être d'une extrême fermeté. Et vis-à-vis de ces deux individus, des deux pères dont on est en train de parler, effectivement, les faire rentrer dans un processus d'analyse et de voir si effectivement ils sont des potentiels islamistes radicalisés ou pas, et aller là où il faut. Mais je pense que attention, la grande majorité, je fais toujours à cette antenne la même remarque. La grande majorité des musulmans sont scandalisés, sont outragés, sont blessés par ce qui est arrivé à Samuel Paty. Donc attention, ce sont des individus isolés, ils sont détectés, tant mieux, j'allais dire. À la limite, c'est sordide de dire ça, mais tant mieux si ça passe par les enfants, parce qu'au moins on les repère. Mmh. Les deux cas dont on évoquait, j'ai entendu ça à votre antenne, n'étaient pas connus des services de police.
Mais ce sont des islamistes et pas des musulmans. Tout le monde est précis dans le vocabulaire ici. On ne dit pas musulman, on dit islamiste, et ça veut dire quelque chose. Et enfin, sur la circulaire, voilà ce qui est dit. Les écoles et établissements pourront rendre hommage à la mémoire de Samuel Paty. Et on parle d'une dernière heure de cours qui serait consacrée à un temps d'échange. Et là, on dit, l'heure n'a pas vocation à être un retour sur ce qui s'est passé il y a un an, ni une évocation de Samuel Paty ou de sa mémoire. Donc voilà ce que dit la circulaire. C'est quand même très clair.
Bon. Alors, on va juste rejoindre Sandra Buisson, qu'on a retrouvée du service police-justice de CNews. Sandra, racontez-nous ce qui s'est passé dans ce collège de Valence.
Oui, ça commence vendredi. Pendant ce temps de recueillement, cet élève de 5e, âgé de 11 ans, crie « Allah ou Akbar ». Selon nos informations, ce n'est pas un élève qui est connu pour avoir des problèmes ou causer des problèmes, ni être habitué à des provocations. D'ailleurs, le rectorat précise que c'est lui de lui-même qui propose de s'excuser auprès de son professeur et des autres élèves. Suite à ce qui s'est passé, la direction du collège a décidé qu'il ferait l'objet d'une sanction disciplinaire et a donc appelé le père de cet adolescent pour lui faire part de cette décision. Et c'est pendant cet échange téléphonique que cet homme de 43 ans s'est d'abord félicité de l'acte de son fils pendant l'hommage, en accompagnant ses propos de menaces et d'injures à l'encontre du représentant du collège. La suite des événements, ça s'est passé hier matin, donc lundi, quand le père est entré dans le collège et parce qu'il n'était pas d'accord avec la sanction disciplinaire à venir, il a à nouveau menacé le personnel du collège qu'il a trouvé sur son chemin. Le rectorat parle de propos extrêmement vifs et de menaces de mort.
Sandra, est-ce qu'on en sait plus sur ce père de famille, sur ce qui a été retrouvé à son domicile par les enquêteurs ?
Oui, alors c'est un homme qu'on nous décrit comme ayant un caractère très trempé, bien trempé, qui apparaît très sanguin, au point que le collège, quand il s'est introduit dans l'établissement hier, le collège a eu besoin de faire appel aux forces de l'ordre pour que le calme revienne. Cet agent de sécurité, donc qui a un peu plus de 40 ans, est connu des services de police et de justice, mais pour des faits anciens, nous dit le procureur, qui n'a pas souhaité détailler les motifs qui lui avaient été reprochés, les infractions qui lui avaient été reprochées dans le passé. Alors chez lui, en perquisition, les enquêteurs ont retrouvé une Bible, deux livres salafistes, un sabre et une canne épée. Selon nos informations, ce n'est pas quelqu'un qui était connu des services de renseignement et il devait être examiné ce mardi par un psychiatre. Donc la garde à vue avait été prolongée ce matin.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sandra Buisson. On va écouter la réaction d'un des parents d'élèves de ce collège de Valence qui se dit extrêmement inquiet, évidemment, vu la tournure des événements.
Je m'inquiète pour la sécurité de mes enfants. Je me vois pas, moi, à mon âge, aller dire des choses comme ça devant mes enfants. Ça me choque maintenant, ça me choque. Ça me fait de plus en plus peur, effectivement. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur la scolarité des enfants. Et pas que maintenant, mais aussi dans le futur.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Jeanne Cancard et Florian Paume. Jean Garrigue, vous êtes enseignant bon, dans le supérieur, mais c'est vrai que les professeurs, ils sont menacés de mort, molestés, on l'a vu à Comble-la-Ville, menacés jusqu'à chez eux. Par ailleurs, on avait parlé de ce couple d'enseignants à Marseille qui avait reçu des menaces de mort. Visiblement, ça n'a rien à voir. Ils avaient reçu aussi une photo de Samuel Paty, ça n'a rien à voir avec du terrorisme. C'est visiblement quelque chose de règlement de compte d'ordre commercial. Jean Garrigue.
Alors, il faut toujours rester modéré par rapport à l'ampleur du phénomène. Mais incontestablement, il y a de plus en plus... d'abord, ce que montre cette affaire, c'est ce qu'on appelle, ce que Gilles Kepel appelle l'islamisme d'atmosphère, parce que ce père de famille de la communauté musulmane de France n'est pas à proprement parler un islamiste, il n'est pas fiché ni rien, mais on voit bien qu'il est totalement sous la coupe de ses idées radicales et extrêmes, c'est-à-dire qu'il considère que les lois de la République ne s'appliquent pas pour lui. Ce qui s'applique pour lui, c'est d'abord la charia, et donc aucun respect à la fois pour l'institution scolaire ou éducative, c'est-à-dire le collège, aucune sanctuarisation de ce qui devrait être sanctuarisé, c'est-à-dire les lieux du savoir et de l'éducation, et puis évidemment une vision totalement folle de ce qu'est notre société, de ce que sont nos valeurs. C'est vrai que on avait déjà eu après les attentats de 2015 un certain nombre de réactions d'élèves qui ne respectaient pas les moments de commémoration, les moments de silence. On a retrouvé pour Samuel Paty. Donc là, effectivement, ça pose le problème d'abord et avant tout de cette fraction de cette communauté musulmane de France qui, de plus en plus, échappe et ne comprend pas ce que sont les lois de la République. Et donc, tout naturellement, cet endroit par excellence où doivent être connus et enseignés ces lois élémentaires que sont celles de la République, hein, ce lieu n'est pas respecté. Et effectivement... on peut dire que, et c'était ce qui s'était passé pour Samuel Paty, et ce qui explique aussi peut-être un peu la frilosité du ministre de l'Éducation, qui est pourtant plutôt réputé comme un républicain pur et dur. Vous avez une partie de l'administration pédagogique qui est un peu frileuse sur ces questions, d'une, avec des chefs d'établissement qui ne suivent pas toujours leurs enseignants lorsqu'ils sont menacés ou mis en péril. Et puis, vous avez des enseignants eux-mêmes qui ont quelques complaisances avec ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme ou autre. Alors, ce n'est pas forcément généralisé, mais on se souvient qu'au moment de l'affaire de Samuel Paty, il y avait deux enseignants qui avaient beaucoup critiqué la démarche sur la liberté d'expression qui était celle de Samuel Paty. Donc tout ça, ça fait une sorte de paysage, d'écosystème là qui est quand même très, très inquiétant parce qu'aujourd'hui, l'heure, c'est au combat pour les valeurs de la République, pour défendre la liberté d'expression des enseignants. Et je pense que tout doit être fait pour les protéger.
Et concrètement, Céline Pina, il y a un prof sur deux qui dit se censurer sur ces questions par crainte, tout simplement, des réactions non seulement des élèves, mais des parents.
Oui, mais il se trouve que la contre-enquête qui a été faite sur l'assassinat de Samuel Paty par David Di Nota a de quoi faire froid dans le dos. C'est-à-dire que vous voyez comment, alors que l'élève ment, la principale ne prend pas le temps d'enquêter. Elle reçoit la parole du père qui se déclare offensé au nom de sa religion et n'accorde aucun crédit à la parole du professeur. Et ça commence comme ça. Et les premiers à alimenter la rumeur en justement faisant leur une parole fausse et mensongère, c'est l'administration. Les deuxièmes, ce sont ces deux professeurs qui vont traiter Samuel Paty de raciste, qui est d'ailleurs pour cela qu'il va finir par être exécuté, et qui vont le faire en utilisant des arguments liés à une idéologie islamo-gauchiste que l'on connaît par cœur, et qui démontre complètement l'action de Samuel Paty. Et cet homme se retrouve seul et abandonné, et alors que la parole qu'il accuse est mensongère, qu'elle est relayée par des circuits islamistes et que ça va se terminer dans un drame atroce. quand vous êtes professeur et que vous lisez ce qu'a écrit David Di Nota sur le mécanisme qui va entraîner la mort de Samuel Paty, oui, vous vous censurez. Ou alors vous avez un immense courage, et je remercie d'ailleurs tous les professeurs qui continuent à faire cours, qui ont rendu hommage à Samuel Paty. Moi, j'ai eu un témoignage de choses qui se sont passées dans des villes qui ne sont pas faciles, comme Sarcelles, où certains professeurs ont expliquer ce qui s'était passé. Et ça ne s'est pas si mal passé que ça, d'ailleurs. Donc, je crois qu'on peut remercier ceux qui n'abandonnent pas et qui continuent à se battre là-dessus, parce qu'ils le font quand même en étant seuls et avec un courage incommensurable.
Jean-Garrigue, un dernier mot.
Oui, à ce propos, il est quand même un peu choquant parfois que certains politiques, et je pense très précisément à Alexis Corbière, que j'ai entendu dans une émission, qui visait, comment dire ça, à excuser l'indignation, qui était d'ailleurs une indignation feinte, des élèves qui, par rapport à ce qui avait été fait par la démarche d'explication qui était celle de Samuel Paty. Quand vous avez un responsable politique important comme Alexis Corbière, qui plus est ancien enseignant d'histoire-géographie, qui tente à disculper comme ça ceux qui ont pu critiquer Samuel Paty et ce qui a entraîné la mort de Samuel Paty, ben vous vous étonnez pas aussi qu'il y ait un certain nombre de Français, et notamment des enseignants, qui soient dans une attitude un petit peu en demi-teinte par rapport à ces événements. Et là, franchement, sur des événements comme cela, comme ce qui est arrivé à Samuel Paty ou ce qui est arrivé dans cette école de ce collège de Valence, il n'y a pas de demi-teinte à avoir. C'est très clair, il faut défendre les enseignants, défendre la liberté d'expression, défendre l'enseignement.
Sanctions disciplinaires, Bruno Bonnel, oui. Et évidemment, grande vigilance.
Il n'y a pas de débat sur la défense des professeurs. Évidemment, il n'y a pas de débat sur la commémoration de Samuel Paty. Et pour faire référence à la circulaire qu'on vient de citer, je comprends que l'administration dise, elle laisse justement les directions d'école et les professeurs sur ce temps d'échange, qu'elle parle du temps d'échange, pas de la commémoration, dire bah, à vous de juger jusqu'où vous mettez le curseur, parce que ça dépend des populations qu'on a en face de nous. Je ne parle pas de population là de type de religion ou quelque chose, mais des âges. Monsieur, les écoles sont ouvertes à tous.
Vous imaginez que sur une commémoration sur la Seconde Guerre mondiale, on dit c'est à la carte, à un moment donné, l'État il est là pour dire...
Ce que vous dites,
c'est pas ce que je suis en train de dire.
Bon, allez, c'est ce qui s'est passé.
On continuera le débat une autre fois. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant pour les débats de Punchline sur l'antenne d'Europe 1. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, Éric Ciotti est notre invité exceptionnel dans le grand oral de Punchline. Nous l'interrogerons avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Mais tout de suite, c'est le journal avec vous, Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Nicolas Sarkozy, contraint à se présenter au procès des sondages de l'Élysée, l'ancien président est convoqué comme témoin le 2 novembre.
Un père de famille en garde à vue à Valence, il a menacé de mort le personnel du collège de son fils, sanctionné pour avoir crié à l'Akbar pendant l'hommage à Samuel Paty. Le procès des attentats du 13 novembre, avec les témoignages poignants de plusieurs rescapés pris en otage pendant plus de 2 heures par des terroristes du Bataclan. Et puis du football, ce soir, PSG Leipzig à 21h en Ligue des Champions. Paris qui sera notamment privé de Neymar.
Mais nous ne sommes pas privés de Marlène Thuret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence.
Météo.
Oui, alors la météo en 2 mots, pluie et vent. Et je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Cette fois, pas le choix. Nicolas Sarkozy devra se rendre au tribunal judiciaire de Paris, une audition comme témoin au procès des sondages de l'Élysée.
Et oui, Claude Guéant ainsi que 4 proches de l'ex-président sont jugés depuis hier pour des commandes de sondages sans appel d'offres. L'ancien président comptait sur son immunité pour ne pas se présenter, d'autant qu'il n'est pas directement poursuivi. Mais Marion Gauthier, décision extrêmement rare, le tribunal le force à venir.
Oui, et s'il ne vient pas de lui-même, la force publique pourra être employée. Des gendarmes l'amèneraient jusqu'à la barre. Nicolas Sarkozy ne peut pas être mis en cause, mais il peut témoigner sans que cela porte atteinte à l'immunité présidentielle, estime le tribunal. La défense a fait valoir que l'ancien président était le principal ordonnateur des sondages. Le tribunal conclut que sa parole est nécessaire à la manifestation de la vérité. Enfin, se réjouit Jérôme Carsenti. Il est l'avocat de l'association Anticor qui a cité Nicolas Sarkozy comme témoin en 2016.
Le message qui est envoyé par la justice aujourd'hui aux hommes politiques est très important parce qu'il vient dire « vous êtes les égaux des citoyens que vous gouvernez. C'est un moment important de justice, je crois qu'aujourd'hui nous venons de vivre.
Tout ça c'est du spectacle, glisse un avocat de la défense. Le refus de Nicolas Sarkozy de se présenter a dû froisser le tribunal, ironise-t-il. L'ancien locataire de l'Élysée est convoqué le 2 novembre.
Marion Gauthier, un père de famille en garde à vue depuis hier à Valence dans la Drôme. Son fils de 11 ans avait écopé d'un avertissement après avoir crié à la Akbar lors de l'hommage à Samuel Paty. Non seulement le père a félicité son fils, mais il s'est rendu au collège et a lancé des menaces de mort contre le personnel. L'homme déjà connu de la police doit subir une expertise psychiatrique. Et puis, on vous a parlé de ce couple d'enseignants marseillais qui avait reçu des menaces de mort par courrier. Et bien finalement, selon nos informations, un artisan a avoué les faits. Il était en conflit avec eux pour des problèmes de malfaçon.
Mettre des mots sur l'horreur au procès des attentats du 13 novembre, les témoignages des rescapés du Bataclan ont à nouveau glacé la cour.
Et la parole était donnée aux ex-otages. Récit incroyable d'un face-à-face de plus de 2h30 entre 11 otages et 2 des terroristes, Gladys Laffitte.
Ah oui, un huis clos terrifiant avec 2 terroristes qui s'amusent à tuer des gens, décrit David Alabar comme en apnée. Il a 23 ans à l'époque et suspendu à une fenêtre quand un homme en blanc lui intime de rentrer à l'intérieur. Celui qui essaye de faire le justicier, je le tue, prévient-il. Assis de part et d'autre sur le sol bleu de ce tout petit couloir, contre la porte, sous les fenêtres, les djihadistes s'adressent à eux presque comme des potes, dit David. Un coup part tout seul alors que l'un d'eux recharge son arme. Quel calage de merde, dit l'assaillant en rigolant. Celui-là est calme, semble être le chef, l'autre est plus déterminé à répandre la mort. Il n'entend plus d'une oreille à force de tirer. Il demande alors à Grégory de lui répéter tout ce qu'il entend de la salle. Des râles, des cris, détaille cet informaticien. Il voit l'un d'eux faire un footing sur place en disant « Je suis chaud pour la faire durer cette prise d'otage ». Mais chacun perçoit leur improvisation. Ils sont d'ailleurs surpris de l'assaut de la BRI. Quand David est évacué, il regarde la fosse. Et là, la culpabilité, est-ce que je n'ai pas collaboré ? Se demande-t-il en concluant son terrible récit.
Merci Gladys Laffitte à la cour d'assises spéciale pour Europe 1. Adoption tout à l'heure à l'Assemblée du premier volet du projet de budget 2022. Il comprend notamment le bouclier tarifaire qui doit contenir la hausse des prix du gaz et de l'électricité.
Football, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec les amants de Leipzig au Parc des Princes ce soir.
Oui, match de la 3e journée de Ligue des Champions. En cas de victoire, Paris en tête de son groupe peut consolider son avance. Mais il y a un mais, l'absence de plusieurs joueurs et pas des moindres. Cédric Chasseur, vous êtes devant le Parc des Princes.
Oui, et si l'absence d'André Di Maria toujours suspendu était prévisible, celle de Neymar et de Mauro Icardi ne l'était pas. Le Brésilien est revenu de sélection, semble-t-il, blessé aux adducteurs. L'Argentin, lui, a vu son couple cette semaine qu'il formait avec Vandanara, aussi son agente, voler en éclats. Les supporters parisiens interrogés au bord du Parc des Princes sont partagés sur leurs absences.
Neymar, pas tellement, parce que si c'est pour le mettre au repos et puis derrière, il nous en fout de 3 contre Marseille, moi je veux bien. Après, Icardi un peu plus, parce que c'est des choses un peu plus personnelles et il devrait être capable de passer au-dessus pour un match de Ligue des Champions.
Malheureusement, tout ce qu'entoure le PSG maintenant, c'est surtout les strass et les paillettes, mais le problème, c'est qu'il n'est pas là aujourd'hui. Depuis le début de saison, il n'est quand même pas très bon. Donc espérons qu'il range sa tête et qu'il se mette à jouer au foot.
Voilà, les solutions sont donc limitées en attaque côté PSG ce soir, sauf nouvelle surprise. La production offensive devrait reposer sur les épaules de Kylian Mbappé et de Léo Messi. Réponse à partir de 21h.
Voilà, Cédric Chasseur devant le Parc des Princes et c'est une rencontre à suivre en fil rouge sur Europe 1. On a l'âge qu'on ressent, ainsi parle la reine Elisabeth d'Angleterre qui du haut de ses 95 ans vient de refuser un prix réservé aux personnes âgées. Un magazine lui avait décerné le titre d'ancien de l'année. Elle estime ne pas remplir les critères.
Elle a encore beaucoup d'énergie. Marlène Duret, un mot de la tendance météo pour demain.
Alors, bien, le beau temps ne se maintiendra que vers les frontières de l'Est et près des Pyrénées. Ailleurs, on change d'ambiance. On a une perturbation assez active avec pas mal de pluie et du vent qui se rapproche en ce moment de la Bretagne. Et elle va traverser une très grande partie du pays demain. Alors, la matinée, bon, plutôt calme au niveau des pluies, mais elles vont se renforcer l'après-midi lorsqu'elles vont arriver dans le Massif central et en Bourgogne et Franche-Comté. Et puis, on aura encore de nouvelles entrées maritimes méditerranéennes, plutôt sous forme nuageuse, qui auront tendance à s'étaler depuis le golfe du Lion en direction des Cévennes, de la Drôme, de l'Ardèche et du Var. Les températures maximales seront généralement comprises entre 17 et 22 degrés. Elles peuvent atteindre encore les 24 à 27 dans le sud-ouest. Mais la baisse des températures est surtout prévue pour jeudi et vendredi. Et je rappelle simplement que de nouvelles pluies et un coup de vent prendront le relais la nuit suivante.
Merci beaucoup Marlène Duret. Merci Hélène Zelani. À demain 19h.
À demain.
Pour le journal. Dans un instant, on se retrouve avec Eric Ciotti. Il est notre invité exceptionnel pour le grand oral de Punchline. À tout de suite.
Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1. Dans un instant, Éric Ciotti sera notre invité exceptionnel pour le Grand Oral. D'ici là, avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis.
Bonsoir
Vous
Laurence.
Vous êtes chef du service politique d'Europe 1. On va revenir sur cette journée ou ces prochaines échéances pour les Républicains. Ce matin, il y avait un petit déjeuner autour de Christian Jacob. Qui y avait-il autour de la table, Louis?
Eh bien, il y avait tous les candidats possibles de la primaire de la droite. Donc, il y avait évidemment Xavier Bertrand qui a fait quand même son grand retour puisque... On a appris il y a quelques jours qu'il participerait au congrès. Donc il y avait évidemment Éric Ciotti, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va pouvoir lui poser quelques questions tout à l'heure. Et puis donc voilà, il y avait Valérie Pécresse évidemment, Michel Barnier, Denis Père qui est peut-être un peu moins connu.
Et Philippe Juvin.
Et Philippe Juvin évidemment. Voilà, ce qui était vraiment intéressant, c'est enfin, tout l'enjeu pour les Républicains, c'était d'afficher une famille unie. Donc il y a eu d'ailleurs une photo qui a été diffusée très rapidement sur les réseaux sociaux. Et donc ils ont parlé de beaucoup de choses, notamment sur l'organisation des semaines qui viennent, donc jusqu'au 4 décembre, le jour du congrès. Et donc, par exemple, le nombre de débats télévisés qu'il y aura, entre 2 et 4 débats télévisés. On sait par exemple que Valérie Pécresse était assez favorable à ce qu'il y ait plusieurs débats, que Michel Barnier, lui, était favorable à ce qu'il y ait plutôt un ou deux débats maximum. Donc voilà. Mais ce qui sera le plus intéressant, c'est surtout demain matin, puisqu'il y aura la Commission nationale d'investiture, qui est d'ailleurs, que je crois, présidée par Éric Ciotti. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça montre que les Républicains sont déjà en train d'envisager l'après-2022 avec deux possibilités. La droite gagne, et donc dans ce cas-là, tout l'enjeu pour les candidats, c'est d'avoir une majorité qui est façonnée un peu à la main de chaque candidat, si possible. Et puis, en cas de défaite, eh bien, c'est de savoir à quoi ressembleront les Républicains après 2022, et donc par exemple face à Emmanuel Macron, comment est-ce que la droite peut peser face au deuxième quinquennat du président de la République.
Bonsoir Éric Ciotti.
Bonsoir.
Bienvenue dans le grand oral de Punchline. On est heureux de vous recevoir. L'avenir des Républicains, effectivement, avec cette volonté de montrer une unité de façade, en tout cas, parce que la compétition va démarrer.
Non, pas de façade, réelle.
La compétition va quand même démarrer entre vous cinq. Vous êtes le sixième dans cette histoire. Les débats vont pas se faire à fleurs et mouchetés. Vous allez véritablement débattre. Ça va être proposition contre proposition. Aujourd'hui, de quel autre candidat vous sentez-vous le plus proche?
D'abord, moi, je veux saluer la démarche qui a eu lieu ce matin. C'est à la fois un aboutissement et un départ. La fin d'une longue période de crise, de confusion, et nous en sommes sortis. Et je crois que le fait qu'on soit tous autour de la table, autour de Christian Jacob, qui est l'artisan de cette union, de ce rassemblement, était un point très positif. Et désormais, nous sommes dans un nouveau départ pour gagner l'élection présidentielle. Alors, il y aura une compétition. On a décidé, d'ailleurs, et je crois que c'est l'état d'esprit qui nous anime tous, qu'elle soit sereine, qu'elle soit responsable. On a un devoir, c'est celui de l'unité, c'est ce qu'attendent nos électeurs. Et on a une responsabilité. J'ai la conviction que seul un candidat issu des Républicains pourra battre Emmanuel Macron. Et moi, je souhaite que, parce que Emmanuel Macron a abîmé notre pays, je souhaite qu'il ne soit plus président de la République. Donc, bien sûr qu'on a des différences. Il y aura des débats, il y aura des confrontations, mais je crois qu'elles seront, en tout cas, c'est mon état d'esprit, elles seront respectueuses, elles seront sereines. On a des différences, elles
vous
se poseront
dit,
sur
oui,
le projet. Moi, j'ai un projet qui
Quelle est la différence que vous mettrez en avant par rapport aux cinq autres
Je prends un exemple, la politique fiscale. Je propose une véritable révolution fiscale. Pourquoi? On est le pays au monde qui paye le plus d'impôts. Nous détenons ce triste record. Donc, il faut baisser massivement les prélèvements obligatoires. Je propose deux réformes. D'abord, la suppression des droits de succession, à l'exception des patrimoines très élevés, au-delà de 5 millions d'euros. Et ensuite, la mise en place d'un impôt sur le revenu avec un taux unique à 15%. Une flat tax, c'est-à-dire que tout le monde paierait le même impôt sur le revenu. Et on supprimerait en
tous
contrepartie...
Vous voulez dire. Hein,
absolument. Aujourd'hui, moins de la moitié des ménages paient l'impôt sur le revenu. Et 10% des ménages paient 70%. Donc on a des stratégies dites d'évitement, de défiscalisation, qui fait que beaucoup de la richesse nationale part à l'étranger. Donc je propose un taux qui aura une assiette qui sera beaucoup plus faible, avec une assiette plus large. Et en contrepartie, on pourrait diminuer de moitié le nombre et le montant des niches fiscales. Aujourd'hui, les niches fiscales coûtent plus à l'État que rapporte l'impôt sur le revenu. Et un impôt sur le revenu qui pressure ceux qui sont les plus créateurs de richesses dans notre pays. C'est deux démarches, deux différences. Il y en a sur le régalien, j'en prends une, le droit du sang, par exemple, pour obtenir la nationalité, pour mettre un terme à la nationalité obtenue par hasard, le droit du sol. Voilà. Je crois que je suis le seul à porter ces réformes. Elles sont différentes. Là. Vous voyez, on est sur le débat d'idées.
Louis Dragnel, une question.
Justement, moi, je trouve ça intéressant que vous parliez des sujets régaliens. Enfin, vous êtes reconnu au sein de votre famille politique comme un expert, vraiment un spécialiste des questions de sécurité et d'immigration. Quand on regarde vos propositions aujourd'hui, qu'est-ce qui vous distingue vraiment de celles d'Éric Zemmour ? D'ailleurs, vous avez appelé, enfin, vous n'avez pas appelé, mais vous avez dit que vous étiez prêt éventuellement à voter pour lui au deuxième tour de la présidentielle.
S'il était face à Emmanuel Macron.
Je ne sais pas quelles sont vraiment les propositions d'Éric Zemmour. Je partage et je peux partager une partie du constat que dresse Éric Zemmour sur le déclin de notre pays, sur les menaces auxquelles il est confronté, sur la montée de l'islamisme. Sur le déclassement, qu'il soit social, d'une partie des ménages français qui regardent l'avenir avec beaucoup d'inquiétude. Je partage ce constat que je fais mien, je le posais déjà depuis 2015. Moi, je souhaite que la France reste la France. C'est le slogan de ma campagne. Après, une fois qu'on a partagé ce constat, c'est peut-être ce qui fait la différence. Et ce qui fait la différence avec un candidat issu de la famille des Républicains, c'est quels sont les propositions, comment on les met en œuvre, avec quelle équipe. Voilà, et ça, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. C'est sans doute ce qui nous différencie. Mais pour autant, quand Éric Zemmour ou un autre dit une vérité, je ne vais pas, de façon un peu stérile et ridicule, dire le contraire de cette réalité, parce que moi aussi, je la vois. Et surtout, ce qui est important, c'est que les Français la voient. Hein.
Et justement, vous parliez d'équipe. Aujourd'hui, tout le monde appelle un peu au dépassement. D'ailleurs, vous posez vos idées, ce sont les vôtres. C'est des idées que vous avez souvent préemptées de vous-même. Est-ce que vous seriez prêt, pourquoi pas, à faire équipe avec Éric Zemmour si le cas se présentait à l'issue du deuxième tour de la présidentielle ?
Vous avez raison de souligner que ces idées, et c'est un peu ce qui, je crois, fait ma spécificité dans cette campagne. Je les défends depuis le début de mon engagement politique. Des valeurs pour mieux protéger nos concitoyens, des valeurs pour mieux faire respecter notre identité. Voilà, je le fais depuis 2007 que je suis député. Je me rappelle de mes contributions à la loi pénitentiaire, que je n'avais pas totalement approuvée d'ailleurs sur certains aspects. Je me rappelle du rapport sur l'exécution des peines que j'avais adressé à Nicolas Sarkozy, qui avait débouché sur 3 lois. Une loi sur l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants, jamais appliquée par François Hollande. Une loi suspendant ou supprimant les allocations familiales pour les parents manquant à leur devoir d'autorité parentale. Une loi pour construire des places de prison sur l'exécution des peines. Donc,
mais vous pourriez faire
moi, je suis en cohérence avec... là-dessus. Et je suis dans ma famille politique. Moi, je souhaite qu'un républicain gagne. Je ferai équipe. Nous sommes une équipe.
Éric Zemmour n'est pas républicain.
Il ne fait pas partie des Républicains. Voilà, donc il suit sa démarche. Ce n'est pas la nôtre. Encore une fois, moi, je le respecte. Je partage une grande partie du constat. Après, ce sont des chemins différents.
On va juste l'écouter, Éric Zemmour. Il était il y a quelques jours sur ce plateau. Écoutez ce qu'il dit à propos de cette primaire qui va s'organiser pour les Républicains.
LR est devenu depuis longtemps un parti de notables centristes qui a trahi l'héritage du général de Gaulle, qui a trahi l'héritage de Georges Pompidou, qui a même trahi l'héritage du RPR des années 90. Aujourd'hui, tous reprennent mon discours pour tenter de vous séduire. Ne soyez pas dupes. Les anciens chiraciens qui voudraient vous représenter se disent opposants de Macron. Mais que lui oppose-t-il vraiment ? Macron le dit lui-même, Darmanin le dit lui-même. Rien ne les sépare. Leur programme de 2022, c'est le programme de Macron en 2017. Leur primaire, c'est la bataille pour choisir le futur Premier ministre de Macron. Ne soyez pas dupes.
Voilà, c'était pas dans le studio d'Europe 1, c'était en meeting, vous l'aurez noté, il n'y a pas de public. Est-ce que vous allez choisir le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Éric Ciotti ?
Non, nous allons choisir le président de la République. C'est toute la différence. Et encore une fois, j'ai la certitude que seul le candidat qui sortira vainqueur de cette primaire peut gagner. Et moi, je souhaite qu'on gagne. Je souhaite qu'on ne soit pas que dans le constat, aussi pertinent soit-il. Je souhaite qu'on ait le courage de l'action. Et les propositions que je porte aujourd'hui, comme celles que j'ai faites adopter hier, que j'ai toujours défendues hier, mon attitude au second tour de 2017. Moi, je suis
vous
le seul candidat.
Vous êtes le seul à ne pas avoir voté Macron. D'accord. Vous avez voté pour
candidat.
Qui
J'ai voté, je me suis... J'ai voté blanc. J'ai mis un bulletin dans l'enveloppe au nom de François Baroin.
Donc, qu'est-ce qui nous dit que les autres auront la même attitude que vous en 2022 si Emmanuel Macron est élu?
Je ne sais pas. On leur posera, vous leur poserez sans doute la question. Moi, mon attitude, elle est claire. J'ai toujours assumé mes choix. Je les revendique. Je suis de droite. Je ne m'excuserai pas d'être de droite.
Vous n'irez jamais.
Ces procès qui sont
faits,
en tout cas, je ne les reçois pas pour moi.
D'accord. Louis de Ragnel.
Justement, vous essayez de montrer que la droite est de droite, enfin, c'est ce que vous répétez souvent. On a l'impression quand même que les Républicains aujourd'hui, de manière globale, sont complètement pris en étau, un peu écrasés, entre Emmanuel Macron, qui a un discours très offensif maintenant sur les questions de sécurité, d'immigration. Il a quand même annoncé la diminution par deux du nombre de visas délivrés à l'Algérie et au Maroc. Donc il y a d'un côté une pression très forte exercée par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, et de l'autre côté, effectivement, Éric Zemmour. La question qu'on se pose tous, c'est quel est l'espace qui reste justement pour les Républicains, pour faire entendre leur voix, et enfin, comment est-ce que vous estimez pouvoir vous en sortir, pas vous, Éric Ciotti, mais comment est-ce que cette famille politique peut s'en sortir? Parce qu'on a l'impression que, si vous voulez, à l'approche de cette élection présidentielle, qu'il est possible que les Républicains disparaissent.
Éric Ciotti.
Mais il est aussi probable qu'ils gagnent. Voilà, il y a les deux hypothèses. Et moi, je me bats pour la victoire. Emmanuel Macron, vous citiez ses tracts de campagne. Il est en campagne aujourd'hui. C'est un candidat comme les autres, mais il a peut-être oublié que ça fait 4 ans et demi qu'il est président de la République. Donc, quelle crédibilité aux annonces qui se succèdent les unes après les autres chaque jour? Pourquoi M. Macron...
Sur les visas, c'est concret. Hein.
Pourquoi M. Macron n'a-t-il pas suspendu les visas préalablement? Il découvre au bout de 4 ans et demi qu'il y a un problème migratoire. Pourquoi M. Macron n'a-t-il pas mis en place une politique judiciaire à la hauteur de l'augmentation de la violence? Il nous annonce une loi d'orientation sur la sécurité. Elle ne sera pas votée dans ce quinquennat. Ça voudra dire qu'il y aura eu quasiment sur la sécurité un quinquennat pour rien. On débat aujourd'hui des questions judiciaires. Ça veut dire que la loi qui va en tirer les conséquences, elle aussi, ne sera pas votée dans ce quinquennat. On voit bien qu'on est dans le slogan. M. Macron est très fort pour communiquer. Il est très fort pour multiplier les leurs. Mais il est beaucoup moins actif pour bâtir des propositions et surtout des actes concrets. Un exemple, la lutte contre le séparatisme islamiste. Je débattais l'autre jour sur un plateau avec le président du groupe En Marche au Sénat. Il me dit, nous avons fait voter une grande loi contre le séparatisme islamiste. J'ai dit, bien, très bien, citez-moi une mesure concrète, forte, qui fasse reculer l'islamisme dans notre pays. Il a été incapable de le faire.
Et je crois que c'est bien. Il y a quand même les fermetures administratives de mosquées, il y a quand même un certain nombre de
dispositions. Tout ça existait déjà, vous le savez bien, vous êtes un expert de ces questions.
C'était plus compliqué à mettre en place avant, en tout cas.
On a toujours pu faire...
Les préfets étaient obligés d'utiliser les problèmes d'alerte incendie,
ils
étaient obligés de
contourner. On a toujours pu fermer les établissements qui créaient un trouble à l'ordre public. Donc, il n'y a rien vraiment de nouveau. On est dans les slogans. Mais quand j'ai débattu d'amendements à l'Assemblée nationale pour interdire le port du voile pour les fillettes, pour interdire le burkini sur les plages ou dans les piscines, pour interdire le voile dans les bureaux de vote pour les assesseurs, quand on a demandé l'interdiction de port de signes religieux pour les accompagnants scolaires, comme c'était le cas sous la présidence de Nicolas Sarkozy, eh bien, on a subi un rejet systématique. Il y avait des instructions de l'Élysée, d'ailleurs contre l'avis même du ministre de l'Éducation nationale, qui lui était plus allant sur ces questions, parce qu'il sait les menaces que cela représente. Eh bien, il y a eu un veto total de l'Élysée, une forme d'immobilisme qui caractérise le « en même temps ». On donne des signes comme pour l'Algérie. À un moment, on parle de crimes contre l'humanité. Après, on parle d'utilisation indécente de la part de l'Algérie de ces aspects mémoriels. Donc, on dit tout et ce contraire. Ce pouvoir dit tout et ce contraire, mais... Et son contraire, et au final,
concret,
il demeure immobile.
Cas concret,
c'est ça la réalité.
Ce qui s'est passé à Valence, en début de semaine, un père de famille qui fait irruption dans le collège, parce que son fils a crié à Allahu Akbar le vendredi lors de l'hommage à Samuel Paty. Qu'est-ce que vous recommandez pour protéger les professeurs, pour protéger le personnel enseignant?
D'abord, il faut rompre avec une forme de lâcheté. Moi, j'ai même rencontré dans ma circonscription des exemples où des enseignants n'ont eu énormément de mal à se faire entendre par leur hiérarchie alors qu'ils rencontraient des difficultés et qu'ils subissaient des menaces. J'ai un cas très concret dans un collège de ma circonscription. Il y a eu un peu dans l'éducation nationale cette tendance à pas de vague. Voilà. On met la poussière sous le tapis, on occulte les problèmes. Donc, il ne faut occulter aucun problème. Il faut agir. Il faut saisir la justice.
Un peu changer quand même.
Il faut soutenir. Comment? Il faut soutenir les professeurs. Il ne faut pas les laisser seuls. Il faut faire de l'enseignement de la laïcité un principe intangible, de l'enseignement de la Shoah. Il n'y a aucune période de notre histoire, aucun cours de sciences naturelles qui ne doit être effacé, qui ne doit être abandonné. La République doit s'imposer et elle ne doit pas subir. C'est ça la réalité.
On fait une pause, on vous retrouve dans un instant, Éric Ciotti avec Louis Dragnel. On parlera des taxes sur le carburant. Comment aider les Français qui sont écrasés par la hausse des prix de l'énergie? Vos solutions dans un instant, à tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, notre invité exceptionnel ce soir, c'est Éric Ciotti, candidat à l'élection présidentielle. On va parler des taxes, évidemment, sur le carburant, en tout cas la hausse des prix du carburant qui assomme les Français et leur pouvoir d'achat. Le gouvernement affirme qu'une mesure sera annoncée allez, d'ici 48 heures. Il hésite entre le chèque carburant et peut-être une baisse sur les taxes. Qu'est-ce que vous préconisez?
Moi, je propose une baisse des taxes. En tout cas, je propose de supprimer la TVA sur la TICPE. Parce qu'aujourd'hui, on a ce paradoxe. Il y a une taxe qui représente aujourd'hui une part très importante du prix que de plus en plus important que payent les Français sur un litre d'essence 98 ou 95. Il y a 60 centimes environ sur la TICPE, la taxe intérieure sur les produits énergétiques. Et sur cette taxe, on paye la TVA. Donc,
double
il y a une
taxe
sur la taxe. Donc, je propose que sur cette partie, on ne paye pas la TVA. Donc, ce qui aboutirait à diminuer de 10 à 15 centimes par litre le prix du carburant. Je crois que ça serait un effort quand même important et sensible pour les ménages. Ça serait juste. La TICPE sur tous les produits énergétiques rapporte 37 milliards d'euros. C'est moins pour les carburants. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un ménage, à la veille de l'hiver, il va payer 1 500 euros de taxes environ pour se chauffer et 1 500 euros pour se déplacer. C'est totalement insupportable. Et l'État ne peut pas s'enrichir parce que l'État s'enrichit avec l'augmentation du prix du carburant, du prix du baril. 85 euros aujourd'hui, 85 dollars le prix du baril de pétrole, c'est une augmentation aussi des recettes de l'État,
plusieurs
milliards d'euros.
Comment vous vérifiez que la suppression de la TVA elle est bien répercutée sur les prix? On parle des restaurants, taxe à 5,5, ça ne s'est pas vu sur le prix en réalité des menus. Ben là, comment vous vérifiez?
Là, tout est contrôlé, puis c'est l'État qui perçoit. Donc, naturellement, l'assiette, elle sera différente. Et donc, on aura forcément, automatiquement, une diminution des prix, puisque les marges des distributeurs ou des producteurs sont aussi contrôlées.
Elles sont assez faibles,
connues
comme vous
en
savez.
Tout cas. Elles sont faibles, justement. La part la plus importante, ce sont les taxes et la TVA sur les taxes.
Et le chèque carburant, mauvaise idée, a priori?
C'est partiel. En tout cas, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'a prélevé l'État. L'État a reçu près de 2,5 milliards de recettes supplémentaires. Et il reverse 500 millions d'euros. Donc, les ménages y perdent. À tout le moins, le gain supplémentaire apporté en termes de taxes par l'augmentation du prix du baril de brut doit être répercuté. Donc, l'État ne peut pas s'enrichir de cette circonstance particulière. C'est le cas aujourd'hui.
Louis Dragnel.
Dans vos propositions, donc notamment celle-là, il y a beaucoup de baisses de taxes, baisses d'impôts. Mais comment est-ce que l'État, qui déjà est surendetté, peut se financer avec votre programme et avec cette équation? Est-ce qu'il faut plus de dettes?
Je vous ai dit que je voulais porter un projet à la fois de clarté sur les alliances, de courage sur l'action et de vérité sur le constat. Moi, je veux dire la vérité. La vérité, vous avez raison, c'est d'une part un pays très endetté, un pays accablé d'impôts, et pour s'en sortir, il faut diminuer les impôts. Pour y parvenir, il faut préalablement diminuer nos dépenses publiques. Je propose une diminution de 100 milliards d'euros, donc des économies sur un quinquennat des dépenses publiques, quelques mesures concrètes. 3. Le report de l'âge de départ en retraite à 65 ans d'ici 2027. C'est un gain de dépenses publiques, enfin d'argent public, moins de prestations, plus de cotisations, de 20 milliards d'euros. Entre 18 et 20 milliards d'euros. Première mesure. Je propose la suppression sur le quinquennat de 250 000 postes d'agents publics, notamment qui seraient d'ailleurs permis par le passage, le retour aux 39 heures dans la fonction publique.
Valérie Pécresse en propose la suppression 150. De 150 000. C'est
oui,
pas
moi je suis de 150 000.
C'est pas suffisant.
C'est la moitié du programme Fillon. Mmh. Voilà, l'équilibre du programme Fillon, c'était une autre période. Je revendique une grande partie du programme de François Fillon. Je suis sur 250 000. Augmentation du temps de travail, un petit gain pour l'État et les collectivités et la fonction publique hospitalière. Il y a un effort, puisqu'on paye 38 heures, il y a aussi un effort de l'agent, une contribution pour la nation. Et ensuite, les heures supplémentaires sont totalement défiscalisées, qu'elles soient cotisations fiscales ou prélèvements sociaux. Ensuite, je propose également une grande réforme territoriale. Plus que deux échelons territoriaux. La commune, cellule de base de la démocratie, qui retrouverait des pouvoirs qu'on lui a enlevés. Et puis ensuite, une super collectivité. J'en verrai une cinquantaine en France, d'environ un million et demi de
collectivités territoriales.
Voilà.
C'est le retour du conseiller.
Qui refusionnerait les départements, les régions et les métropoles. Et dont les élus seraient des conseillers territoriaux, élus dans les cantons actuels sous la forme paritaire. Voilà. On a vu que les grandes réformes territoriales qu'on nous annonçait porteuses d'économie, au final, la Cour des comptes l'a démontré, je pense aux intercommunalités, ont été très coûteuses. On a créé des nouvelles structures qui, elles-mêmes, ont créé des dépenses de fonctionnement irresponsables, irraisonnées. Donc, il faut revoir tout ça. Réforme territoriale, plus de pouvoir pour ces collectivités, une unité d'action, moins de dispersion, et après, une réforme de l'État, moins d'agences, le retour du pouvoir dans les mains des préfets de département au détriment des grandes directions régionales coupées de la réalité. Voilà, c'est une réforme de l'État aussi.
Je voulais juste revenir sur votre proposition là de donc 250 000 fonctionnaires en moins pendant 5 ans. On pouvait entendre de manière objective la proposition de François Fillon avant le Covid et avant cette crise qui est aussi une crise économique qui n'a pas encore dit son nom. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte justement post-Covid, alors que tout le monde demande plus de services publics, tout le monde demande une présence beaucoup plus importante de l'État, on sent qu'il y a un besoin, une attente de fonctionnaires en plus quand on écoute les demandes des Français. Est-ce que vous pensez que cette mesure est adaptée aux besoins des Français aujourd'hui?
Oui, je le crois. Parce que nous sommes un des pays d'Europe qui a le plus d'agents publics. Nous avons 1 million d'agents publics de plus qu'en Allemagne, alors que la population française est plus faible. Et je n'ai pas l'impression que le service public allemand soit défaillant, qu'il ne soit pas performant. On a ce paradoxe, et là, je vais faire une nuance dans ma proposition, on a ce paradoxe d'un État régalien, celui qui assure la protection des Français, la défense, la sécurité, la justice et la diplomatie, qui est devenu squelettique, dont le poids dans la richesse nationale a diminué de moitié en 50 ans. Et on a un État providence, un État social qui, lui, est devenu obèse, qui dépense de plus en plus. Donc, c'est là qu'il faut faire porter
du coup,
de la réduction de la dépense.
Ils se trouvent où, ces 250 000 fonctionnaires? C'est qui? C'est des professeurs? Ce sont des fonctionnaires territoriaux?
J'exonère tous les métiers qui participent à la sécurité de notre nation. Police, justice, gendarmerie, défense nationale. Et j'exonère les soignants de la fonction publique hospitalière. Je dis bien les soignants parce que dans la fonction publique hospitalière, il y a aujourd'hui plus d'un quart de personnes qui occupent des fonctions administratives. Là aussi, c'est une proportion beaucoup plus importante que dans des pays qui ont su réformer leur État comme l'Allemagne l'a fait. Donc, on peut, sur tout le reste, on peut réformer
l'État. L'éducation nationale, oui ou non?
L'éducation nationale, il y a presque 1 200 000 fonctionnaires. Ce n'est pas une question de moyens, l'éducation nationale.
Non, mais personnel.
Il y a des enseignants aujourd'hui qui sont dispensés, il y a des fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont dispensés d'enseignement. Donc je pense qu'on peut réduire aussi, tout en ayant autant, voire plus d'enseignants. Ce qui est important, c'est d'avoir des enseignants, de réorganiser différemment l'équilibre entre les tâches administratives, les personnels qui sont déchargés de fonctions d'enseignement, il y en a beaucoup, notamment pour des raisons syndicales, et ceux qui sont aux côtés, devant les élèves, dans les classes.
Et du coup, ailleurs, les 250 000, donc il y aura un petit peu de personnel de l'éducation nationale, mais vous pensez à où exactement, du coup
Je vous ai parlé d'une réforme de la fonction publique territoriale.
Donc c'est là que l'essentiel
c'est 2 millions, de postes... C'est 2 millions de fonctionnaires. Vous savez, j'ai présidé...
Donc ce n'est pas l'administration centrale d'État, c'est plus l'administration territoriale.
Oui, mais elle est source aussi de dépenses publiques. J'ai présidé pendant 9 ans le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. C'est une très grande collectivité. Quand je suis arrivé, il y avait 5100 fonctionnaires. Quand j'ai transmis à mon successeur Charles Angénésie la présidence du département, il y en avait 4300. Voilà, donc on peut le faire sans révolution, sans affaiblir la qualité du service public. Aujourd'hui, on a un service... Le paradoxe, c'est que vous avez raison, Louis Dragnel, nos concitoyens veulent un service public de qualité, de plus en plus exigeant. Mais ce n'est pas parce que nous avons de plus en plus de fonctionnaires que ce service public est de qualité. Voilà, donc il faut aussi des réformes, une organisation. Et j'ai la faiblesse de croire que depuis 1981... On a vu, je crois, plus d'un million de fonctionnaires en plus dans notre pays. Et parallèlement, on a vu la dégradation de notre service public. Donc, ce n'est pas de là d'où vient le problème. Plus on a de fonctionnaires, moins on a un service public aujourd'hui qui répond aux attentes des Français. Plus on dépense, on est le pays de l'OCDE, enfin de l'Europe en tout cas, qui consacre le plus d'argent à la dépense publique. On est même monté pendant la crise sanitaire à 68%, c'est-à-dire qu'on était un pays quasi nationalisé. Et pour autant, il y a ces demandes. Un hôpital qui est affaibli, un système de santé qu'on croyait le meilleur au monde, on a vu ses défaillances. Une sécurité qui est plus assurée. Services publics défaillants,
c'est ça la réalité. On va faire une pause, Eric Ciotti. On va parler de sécurité, précisément, à la lumière de ce qui s'est passé à Oyonnax, un groupe de délinquants qui s'y a, avec une disqueuse, une caméra de vidéosurveillance qui gênait leur trafic de stupéfiants. Tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Eric Ciotti, invité exceptionnel du grand oral de Punchline. Eric Ciotti, à Oyonnax, dimanche soir, à 20h, des jeunes ont pris une disqueuse pour scier une caméra de vidéosurveillance qui était au-dessus d'un mât. Tout cela, évidemment, dans une impunité totale. Les policiers n'ont pas eu le temps d'arriver pour les en empêcher. Quelle est la solution pour ces quartiers qui ne respectent évidemment plus la loi, mais qui font sécession?
Cet événement est malheureusement extraordinairement et trop fréquemment constaté. C'est le quotidien de beaucoup de quartiers, de beaucoup de territoires, vous le dites. Il y a des quartiers qui aujourd'hui ne appliquent plus les lois de la République, où les lois de la République ne sont plus en fonction, où les policiers ont du mal à pénétrer même, où les forces de secours, les pompiers, les médecins, ne peuvent plus se rendre. Donc il faut que la loi républicaine s'impose à nouveau dans ces quartiers. La seule solution, c'est une réponse pénale, ferme, rapide, dissuasive. Il faut que ceux qui défient la République, et là, c'est un acte de défiance envers la République, scier un mât qui porte une caméra, c'est-à-dire qui contrôle, pour commettre... dans la tranquillité, les délits du quotidien, sans doute le trafic de drogue qui gangrène ces quartiers, eh bien, on ne doit plus laisser passer.
Vous proposez de créer des places de prison, hein, 100 000 places de prison?
Moi, je considère que pour améliorer...
Il faut 10 ans pour ça.
Non, je ne pense pas. Pour améliorer la réponse pénale, l'exécution des peines, il faut savoir aujourd'hui, c'est d'ailleurs une réponse à une question que j'ai posée au garde des Sceaux, il m'a répondu la semaine dernière. Aujourd'hui, 83 000 peines de prison ferme, exécutoires, ne sont pas exécutées, sont en attente d'exécution dans notre pays. 83 000 condamnations de la prison ferme. Pourquoi elles ne sont pas exécutées? Parce que nous avons un manque cruel de places de prison. 68 000 détenus aujourd'hui pour 62 000 places. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places nouvelles de prison. C'était dans son programme en 2017. Nous sommes quasiment à la fin du quinquennat. Il en aura construite, à ce jour, livrée à peine un peu plus de 1700. Donc on est très, très loin du compte. Pour mieux exécuter les peines, pour faire en sorte que les petites peines ne soient pas systématiquement déconstruites, aménagées, pour que la sanction ait un sens et donc qu'elle soit dissuasive, oui, il faut plus de places de prison. J'évalue ces places à environ 100 000 aujourd'hui, d'abord pour l'exécution des peines et ensuite pour respecter la loi de la République qui avait prévu, je vous le rappelle, l'encellulement individuel. C'est-à-dire qu'il ne devrait y avoir qu'une personne par cellule. On en est très loin aujourd'hui avec des matelas par terre, avec des conditions inhumaines aussi qui font pointer du doigt notre pays en matière de conditions carcérales. Donc il faut aller vers ce programme de places de prison. Vous me dites que ce n'est pas possible, il faut 10 ans. C'est vrai que c'est difficile.
Il faut du temps.
Dans mon rapport en 2011, remis à Nicolas Sarkozy, j'avais recensé tous les espaces disponibles, notamment les anciennes casernes. Nous avions proposé également d'installer des préfabriqués qui peuvent être construits en quelques mois.
Vous reprenez cette proposition.
Je pense que 5000 places pourraient être construites dans les 6 mois grâce à des préfabriqués installés dans les cours de prison ou dans les délaissés des établissements pénitentiaires actuels. Il faut aussi aller vers des établissements plus légers en fonction du profil de la personne condamnée ou du prévenu. Quand une personne ne présente pas de risque d'évasion ou de risque pour elle-même, on n'est pas obligé d'avoir 9 hectares, des glacis, des tours, des miradors, voilà. On peut adapter des établissements, ils seront moins coûteux, plus faciles à construire, plus adaptés. Donc s'il y a une volonté, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Il n'y en a pas eu naturellement sous Hollande avec Madame Taubira, mais il n'y en a guère plus aujourd'hui, il n'y en a pas eu avec Madame Belloubet, il n'y en a guère plus avec Éric Dupond-Moretti. On est un peu dans cette approche idéologique qui dit la prison, ça doit être l'exception. Bien, face à la gravité de la violence, il faut une réponse pénale, il en faut une aussi pour les mineurs. On manque cruellement de centres éducatifs fermés. Moi, j'avais apporté une réponse, c'était l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants, dans les EPID. C'est une loi que nous avions faite voter, qui avait commencé à être mise en application. Là aussi, Hollande et Taubira l'ont arrêté. Mais Macron a gardé la même politique. Vous savez, le jour où Éric Dupond-Moretti est arrivé à l'Assemblée nationale, en audition dans la commission des lois, il a surpris tout le monde. Vous pouvez regarder les débats, ils sont enregistrés, journal officiel, en disant je vais reprendre une proposition d'Éric Ciotti sur l'encadrement de type militaire des mineurs. Moi, je n'ai pas de tabou. Bien, ça fait un an qu'Éric Dupond-Moretti est là, plus d'un an, rien n'a bougé.
Louis de Ragnel.
Sinon, donc, il y a un sujet aussi qui est lié, c'est la surreprésentation de l'immigration aujourd'hui dans la délinquance.
Bien sûr, vous avez totalement raison.
En 2019, donc, il y a un record de délivrance de titres de séjour qui a été battu. 276 000 titres de séjour qui ont été délivrés. Et puis, on voit de l'autre côté que c'est extrêmement compliqué pour l'État, quel que soit le décideur politique, le gouvernant, le président, d'expulser les personnes en situation irrégulière. On a souvent parlé du problème des pays qui ne reconnaissent pas leurs ressortissants. Mais il y a un problème franco-français, il faut quand même aussi parfois balayer devant sa porte, qui est que quand la justice administrative prononce des expulsions, eh bien très souvent, comme il y a des possibilités un peu innombrables de recours, les décisions ne peuvent pas aller au bout. Et on a l'impression en fait, qu'il y a une forme de fatalité, que au-delà de toutes les postures, les arguments politiques, on a l'impression que c'est quand même très compliqué. Très souvent, la droite s'est beaucoup défaussée sur l'Union européenne, sur les pays étrangers qui ne reconnaissaient pas donc leurs ressortissants. Est-ce qu'il voilà, n'y a pas un problème franco-français? Et est-ce vraiment on peut apporter une solution ou est-ce qu'il n'y a pas une forme de fatalité?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité. Il faut de la volonté, il faut du courage. D'abord, vous avez raison, on a des taux de reconduite à la frontière, notamment vers les pays tiers à l'Union européenne, extrêmement faibles. 120 000 obligations de quitter le territoire, 120 000 expulsions demandées. Il y en a eu en 2020 3 000 à peine, de façon forcée, vers les pays hors Union européenne, vers le Maghreb, vers l'Afrique notamment. Donc c'est ridicule. Quelles sont les réponses, les solutions? D'abord, il faut reconstituer, réinstaller le délit de séjour irrégulier. Il a été supprimé. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre des personnes en garde à vue. Il faut créer des centres, des places de centres de rétention.
Il y en a très peu en France.
Il y en a très peu.
1800.
Et souvent, ils sont vides.
Et 1800, officiellement, les places réellement disponibles sont encore plus faibles. Moi, je propose qu'on ait au moins 4000 places, qu'on double le nombre de places en centre de rétention, parce que les personnes qui sont en centre de rétention, on est sûr qu'on peut les expulser, ou quasiment sûr.
Si on respecte les délais, parce, autrement, que, le, parce on, que le problème, c'est que souvent on ne respecte pas les délais.
Le délai a été augmenté, ça a été une bonne mesure, je propose qu'il soit porté à un délai plus long, mais...
Par rapport aux autres pays européens qui sont...
Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 6 mois, jusqu'à 180 jours.
6 mois en centre de rétention.
Oui, parce qu'il faut que le parcours d'expulsion soit conduit à son terme. Ensuite, il faut faire preuve de moins de naïveté sur la demande d'asile. Parce que la demande d'asile, c'est aujourd'hui la voie légale pour l'immigration illégale. La plupart des demandeurs d'asile n'obtiendront pas le statut de réfugié. Environ les deux tiers. Donc ce sont des faux réfugiés politiques. Et il faut savoir qu'une fois qu'ils sont en France, 95% d'entre eux ne seront pas expulsés. Donc il faut notamment faire une sélection de ceux qui arrivent de pays sûrs, parce que quand on arrive d'un pays sûr, on n'a pas à justifier d'une demande pour obtenir un statut de réfugié. Donc là, ces demandes, elles doivent être traitées en quelques jours. Le placement en rétention de ces demandeurs d'asile et leur expulsion vers les pays sûrs.
Justement, ensuite, expulsions ne se font pas.
Un dernier mot,
sujet là.
C'est la fin.
Parce qu'il y a sans doute un manque de volonté politique et diplomatique. Moi, je salue le conditionnement de l'octroi des visas au fait qu'on délivre des laissez-passer consulaires pour reprendre ces ressortissants, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Mais pourquoi si tard? Et est-ce que ça sera suivi réellement des faits? Sincèrement, j'en doute. Voilà, mais il y a des solutions concrètes. Pour autant qu'on fasse de cette politique une priorité, en Allemagne, qui est un pays qui a ouvert ses frontières à la demande de Mme Merkel de façon irraisonnée, je le dirais, irresponsable même, il y a pourtant des taux de reconduite à la frontière beaucoup, beaucoup plus élevés. Ça veut dire que dans le cas de l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a un problème français, un manque de volonté, de courage.
Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'être venu évoquer votre programme dans le cadre de cette compétition qui s'annonce chez les Républicains et donc avec cette candidature à l'élection présidentielle. Merci Louis de Ragnel.
Merci Laurence.
On se retrouve demain à 18h pour Punchline. Bonne soirée à vous sur notre antenne. Tout de suite, c'est Moulinet Show pour Verveine Underground. Bonne soirée.